Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat sur Europe 1. C'est votre grand journal du soir, on y est. Ce mur du 5 décembre, comme l'a nommé le gouvernement, des manifestations partout en France, des tensions aussi à Nantes, à Bordeaux, à Paris également. On va suivre ça de près, en marge du cortège important. On fait ce point complet avec vous, Sébastien Krebs, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La situation ce soir évidemment, mais aussi les prévisions de trafic pour demain. Toutes les précisions, c'est à suivre sur Europe 1. 18h20, mon invité Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Il est au cœur de cette manifestation parisienne et il vient de tweeter « Une lame de fond commence ». Rendez-vous pour ses réponses à 20 minutes. Dans 20 minutes. Les grandes voix à 18h30 sur cette journée de mobilisation et sur ce qui se joue en coulisses au sein de l'exécutif. Toute la rédaction mobilisée pour vous informer pendant ces deux heures. Vous guider également. C'est l'info qu'il vous faut, votre grand journal du soir s'élance jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ces manifestations pacifiques et commencent à venir dangereuses pour les gens, même les jeunes qui commencent à casser, bah c'est eux qui commencent à foutre la merde et c'est bien dommage.
Pluie de projectiles et incendies en plein Paris, la manifestation parisienne perturbée par les casseurs. Le cortège a été empêché d'avancer pendant plusieurs heures.
Forte mobilisation dans les cortèges un peu partout en France. Au fond, 450 000 manifestants en région, un fonctionnaire sur cinq en grève, plus de la moitié des cheminots et des enseignants.
On se souvient quand même des grèves de 95, hein, où on a fait plus de 10 jours grève et on pense que si on fait rien, on n'a rien.
Un mouvement reconduit ce soir, statu quo à la SNCF demain et dans les transports parisiens jusqu'à au moins lundi.
Pour moi, c'était qu'aujourd'hui, donc je m'imaginais pas plus, mais on l'a fait aujourd'hui, le covoiturage, on va continuer. C'est un impact pour nous, c'est compliqué pour nous de se déplacer, de pouvoir venir travailler.
Alors le système d'EVA continue, mais jusqu'à quand? Et toutes les prévisions de trafic, c'est dans un instant.
Et face à la grogne, le gouvernement joue la sérénité et la détermination. Édouard Philippe annoncera le détail de la réforme des retraites en milieu de semaine prochaine.
La Bourse de Paris, pardonnez-moi.
5 801 points, elle est stable ce soir.
Et la météo, c'est avec Wanissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest demain avec beaucoup de pluie. Et du coup, ce soir, un département se retrouve placé en vigilance orange pluie verglaçante pour demain matin. C'est le département des Ardennes, on y revient à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Détonation et gaz lacrymogène, le scénario ressemble à celui du 1er mai dernier. Un groupe de militants radicaux, Black Bloc, positionné en amont du cortège officiel et qui provoque en quelques minutes le chaos, incendie, vitrine brisée près de la place de la République. Nous y sommes en direct avec vous ce soir, Jean-Jacques Héry. Quelle est la situation ?
Eh bien Sébastien, une épaisse odeur de gaz lacrymogène flotte toujours sur la place de la République, particulièrement à l'angle avec le boulevard de Magenta. C'est à cet endroit qu'en milieu d'après-midi, un groupe de casseurs, une cinquantaine au moins, cagoulés, vêtus de noir, a commencé par incendier un préfabriqué de chantier. La tension avec les CRS est ensuite montée. Gaz lacrymogène d'un côté, jet de bouteilles et même de planches de bois de l'autre. Et au final, un immense chaos, pétards, grenades assourdissantes et feux d'artifice. Ensuite, de nombreux manifestants se sont retrouvés pris dans les mouvements de foule et beaucoup, comme Sonia et Aurélie, n'ont tout simplement rien compris.
On a été bloqués pendant deux heures. En fait, c'est juste que c'était pas très bien organisé, alors on savait, pardon, on savait pas trop où on devait aller. Et bah voilà, c'était un peu le bordel, quoi.
Le boulevard était plein et puis les têtes de cortège, du coup, étaient bloquées au niveau de la gare de l'Est. Et tout le monde s'est réuni à République, mais ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas du tout.
Et voilà, ça a fini avec les lacrymos, mais on ne sait pas pourquoi non plus.
Pour Lionel, ouvrier dans la métallurgie, la manifestation a de toute façon été gâchée.
Ouais, quand même, c'est une manifestation pacifique et commence à venir dangereuse pour les gens. Même. Bon, bah, on essaye de gagner notre pain, mais les jeunes qui commencent à casser, bah, c'est eux qui commencent à foutre la merde. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage.
Et c'est vrai que le cortège qu'on a pu voir cet après-midi était fractionné, désordonné. Certains arrivant déjà à Nation, alors que d'autres étaient toujours coincés, place de la République. Ce n'est plus le cas maintenant, hein, au moment où je vous parle. Je vois des manifestants arpentés le boulevard Voltaire direction Nation. Ils ont au moins 3 heures de retard sur ce qui était prévu.
Jean-Jacques Héry, depuis la place de la République pour Europe 1, il y a eu des interpellations lors de ces incidents. 57 personnes placées en garde à vue, information du service police-justice d'Europe 1.
Et il y avait dans le cortège de cette manifestation parisienne des dizaines de milliers de personnes, 250 000, affirme la CGT ce soir. Des cortèges importants un peu partout en France, 245 rassemblements contre cette réforme des retraites.
Et les cheminots, les enseignants, des avocats, des personnels soignants, des retraités, les agents d'EDF et même des pompiers. Les préfectures ont quant à comptabiliser plus de 450 000 manifestants à travers la France, donc sans compter Paris, 33 000 à Toulouse, 20 000 à Bordeaux, Montpellier ou encore à Nantes où là aussi il y a eu des affrontements, plus de 10 000 à Clermont-Ferrand, à Lille, à Tours, à Rennes, mobilisation aussi dans des villes moyennes comme Angers ou Châteauroux.
Et 25 000 manifestants à Marseille, ce qui rappelle des souvenirs à cette enseignante. Isabelle, écoutez.
On se souvient quand même des grèves de 95, où on a fait plus de 10 jours grève et on pense que si on fait rien, on n'a rien. La mesure avait été retirée. Écoutez, aujourd'hui, on espère bien qu'il en sera de même et sachant qu'un enseignant qui démarre gagne autour de 1500 euros. Si la retraite est calculée sur les 25 dernières années, on peut imaginer, vu la paye qu'on a, ce qui va nous rester. Plus l'injustice du système par points qui soi-disant est juste et qui en fait profite pas à tout le monde en sachant que voilà, c'est le même système pour ceux qui gagnent 7 fois le SMIC et ceux qui gagnent une fois et demi le SMIC. Donc ça ne peut pas aller non plus dans le sens de la justice comme c'est annoncé.
Faire grève, ça coûte cher? Vous êtes prête à faire ce sacrifice?
Oui, ça coûte cher. Bien sûr que ça coûte cher. Mais en même temps, c'est une question de survie aussi. On n'est pas des nantis, on est des gens au front. Voilà.
Une manifestante à Marseille, au micro de Nathalie Chevancin.
Et on va revenir longuement sur ces manifestations juste après le journal, avec notamment mon invité Olivier Besancenot ce soir, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Il est à l'heure où nous parlons encore au cœur du rassemblement parisien.
Des manifestations, mais aussi des blocages et des actions un peu partout en France qui ont notamment touché les raffineries et à nouveau les dépôts de carburant. Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, et 7 des 8 raffineries françaises sont touchées par un mouvement de grève à Fézin, près de Lyon, ou encore à Donges, en Loire-Atlantique. L'activité est à l'arrêt. Marin Guillotin est délégué FO à la raffinerie de Grandpuy en Seine-et-Marne.
Aucun produit ne sort de notre site. Nous n'avons aucune réception, donc pas de pétrole brut, notamment à rentrer sur le site. Certains personnels ont refusé de prendre les relèves. C'est parti sur 36 heures, ce qui nous emmène à demain 14 heures.
Après avis reconductible pour ces salariés déterminés, 12 dépôts de carburant sur un total de 200 ont également été bloqués par des employés, accompagnés parfois de gilets jaunes, comme à Saint-Jean-de-Bray, près d'Orléans. Les gilets jaunes qui ont de nouveau occupé des ronds point. Exemple à Martigues ou près de Rouen. Certains ont même organisé une opération péage gratuit à Saint-Arnoult en Yvelines sur l'autoroute A10 ce matin. Dans la Drôme, un sabotage a endommagé la ligne à grande vitesse entre Lyon et Marseille. Plusieurs mètres de câbles de signalisation ont brûlé. Le préfet évoque des voyous qui mettent en danger la sécurité des personnes. Autres actions dans des commissariats, plusieurs ont fermé symboliquement à Nice ou à Mont-de-Marsan par exemple, ou dans des facs comme à Toulouse où l'ensemble du campus du Mirail est fermé après un appel au blocage des étudiants. À Paris, une dizaine de lycées a également été bloquée. Et puis déception pour les touristes, plusieurs musées n'ont pas pu ouvrir. Le musée d'Orsay, le château de Versailles ou encore la tour Eiffel sont restés fermés aujourd'hui.
Voilà pour ce tour d'horizon qui montre l'ampleur de ce mouvement. Merci Jean-Gabriel Bourgeois.
Alors on va évidemment rester ensemble pour faire le détail. Un fonctionnaire sur 5 était en grève aujourd'hui. Plus de la moitié des enseignants du primaire, 42% dans le secondaire, 43% des agents d'EDF, 15% dans la fonction publique hospitalière.
Et la grève a été comme attendu particulièrement suivie dans les transports avec 55% des cheminots de la SNCF et même 85% des conducteurs en grève. Est-ce qu'on sait ce soir? Eh bien c'est que cela va durer. Aurélien Fleureau, jusqu'à lundi inclus pour ce qui concerne la RATP en région parisienne. Et côté SNCF, rien ne bouge non plus demain.
Oui, c'est quasiment un copier-coller avec un TGV sur 10 demain, 15% du trafic transilien assuré en Ile-de-France, des trains intercités qui vont circuler au compte-gouttes, un aller-retour seulement sur Paris-Brive, Paris-Granville et Paris-Clermont, rien entre Nantes et Bordeaux, Lyon et Clermont ou encore entre Paris et Nevers. Pour les TER, 30% du trafic assuré, mais majoritairement par des cars. Voilà pour vendredi, mais il faut s'attendre à de telles perturbations ce week-end et en début de semaine prochaine. C'est en tout cas ce qui ressort des assemblées générales de cheminots qui se sont tenues aujourd'hui. Aurélien travaille sur le réseau de la gare de Lyon.
On voit mal d'ici lundi des paroles rassurantes du gouvernement. Au contraire, ces derniers jours, les propos se sont plutôt durcis, on va dire. Je vois pas comment lundi on pourrait pas être en grève si on n'a pas obtenu d'évolution et de garantie, quoi.
À la RATP, les syndicats ont déjà annoncé que la grève allait continuer jusqu'à lundi inclus. Demain, le trafic sera quasi semblable à celui d'aujourd'hui avec une circulation uniquement aux heures de pointe. Le week-end sera fortement perturbé également. Et là, les quelques trains et métros en circulation rouleront surtout entre 13 et 18 heures.
Les précisions d'Aurélien Fleureau, vous retrouvez évidemment toutes ces prévisions de trafic, toutes ces informations sur Europe1.fr.
Et avec presque aucun transport public, Paris avait des allures de ville morte aujourd'hui. aujourd'hui, gare déserte, aucune cohue, même pas de bouchons sur les routes, comme un dimanche en somme. Les Franciliens avaient pris leur disposition, beaucoup de télétravail. Hélène Terzian, vous êtes dans le quartier d'affaires de la Défense, évidemment très calme ce soir, mais surtout la grande question, c'est comment s'organiser pour la suite ?
Exactement, ici la question commence à se poser, même si il faut admettre que pour le moment, eh bien l'atmosphère reste très sereine. Il faut dire qu'à 18h ici d'habitude c'est l'heure de pointe, normalement ça grouille de partout, on joue des coudes pour aller chercher son métro, là il n'en est rien. Devant le parvis clairsemé, Cédric est interloqué par ce spectacle.
C'est désertique, c'est impressionnant. C'est pire que le mois d'août, jamais aussi calme.
D'habitude, il y a quoi ici ?
Ah, il y a plein de monde, il y a plein de monde ici. Ça circule partout, ça court partout, entre les courses de Noël, les gens qui font des pauses, qui descendent. Donc c'est très particulier. Avec son lot d'avantages, on est tranquille.
Cédric peut particulièrement remercier le système du télétravail, grand gagnant de cette journée de grève. La plupart des salariés ici ont anticipé les perturbations en travaillant chez eux, mais ce n'est pas toujours facile lorsqu'on doit également garder les enfants chez soi. Pas toujours évident non plus d'anticiper ces déplacements. Alors avec la grève reconduite à la RATP jusqu'à lundi, pour de nombreux salariés comme Alexandra, eh bien c'est la crainte de nouvelles journées difficiles.
Pour moi, c'était qu'aujourd'hui, donc je m'imaginais pas plus, mais on l'a fait aujourd'hui, le covoiturage, on va continuer.
Qui est-ce qui conduit du coup
C'est ma collègue.
Elle va pas être le chauffeur pendant un mois, la pauvre.
C'est un impact pour nous, c'est compliqué pour nous de se déplacer, de pouvoir venir travailler. Même on est en sous-effectif, c'est compliqué. Il va falloir qu'ils reprennent les transports. Ouais. La semaine prochaine, pas plus, qu'ils poussent pas plus.
Des salariés qui espèrent ici que le mouvement ne durera pas plusieurs semaines parce que le risque, glissait un manager, c'est que la qualité de nos travail en pâtisse.
Hélène Terzian en direct depuis le quartier de la Défense à Paris.
Europe 1.
La suite du journal sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Quelle réponse du gouvernement ? Nouvelle précision sur le calendrier de la réforme des retraites. La version, c'est architecture, hein, dit-on. Ce sera en milieu de semaine, Édouard Philippe. C'est à suivre dans votre journal de 18h.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et voyons maintenant quelle peut être la réponse du gouvernement face à cette grogne et cette France paralysée. Et ce n'est peut-être que le début. Aujourd'hui, en pleine grève, le Conseil des ministres s'est réuni.
Bonsoir Jean-Rémy Baudot.
Bonsoir à tous. Bonsoir
on
Sébastien.
On retient une phrase aujourd'hui. Il reste des marges de négociation. Voilà, c'est ça, c'est une forme de réponse.
C'est la porte-parole du gouvernement qui l'a dit à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Des marges de négociation autour de ce qu'elle appelle, je cite, des situations spécifiques. Et si Sibeth Ndiaye de préciser, les carrières longues, la pénibilité ou l'incapacité permanente de travail. Ça ressemble effectivement à une stratégie pour lâcher du lest sans trop s'avancer, même si ça fait quand même plusieurs semaines que le gouvernement martèle que le dialogue est ouvert, notamment sur la pénibilité. Ça doit rentrer dans l'attribution des points, me confiait une ministre à la mi-journée. C'est donc un début de réponse. Mais le gouvernement reste ferme sur les fonds. Les régimes spéciaux doivent disparaître, sauf pour quelques catégories comme les policiers. Et pour les autres, eh bien, des négociations sont possibles sur la transition entre les deux systèmes. Notez que ce soir, on en sait plus sur le calendrier. Jean-Paul Delevoye dévoilera le fruit des concertations avec les syndicats. Ce sera lundi ou mardi. Édouard Philippe prendra la parole en milieu de semaine. On dit qu'il annoncera, je cite, l'architecture générale de la réforme. Alors ça fait réagir certains. L'expression est un petit peu bureaucratique, technocratique, mais en gros c'est un projet très précis, assez proche du projet de loi. Et ce soir du côté de Matignon, on sait que la mobilisation du jour, on dit que la mobilisation du jour est conforme aux attentes. Ça ne semble pas changer le rapport de force. Mais lors d'un point presse, le Premier ministre a longuement rendu hommage aux syndicats qui ont organisé, dit-il, des cortèges dans le calme. Ça aussi, ça ressemble à une main tendue vers les organisations syndicales.
Voilà, donc milieu de semaine prochaine pour avoir des réponses. Et en attendant, ça risque de durer dans les gares et sur les rails. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
On va refaire le tour, bien entendu, hein, de toutes ces informations. Minute par minute, on vous tient au courant. Hein, on sera avec Olivier Besancenot en direct depuis le cortège. Hein, dans un petit instant, le cortège parisien. L'actualité en bref également, Sébastien.
Oui, avec ce vol spectaculaire chez un ostréiculateur du Morbihan, 4 tonnes et demie d'huîtres et 200 kilos de palourdes dérobées la nuit dernière à Baden. Un casque, semble-t-il, très bien préparé. Des vols qui peuvent être fréquents dans ces parcs à huîtres en fin d'année.
Et de nouvelles de ce soir de l'aventurier Mike Horn, toujours en difficulté au cœur de l'Arctique.
Depuis 84 jours dans un froid extrême, sur une banquise à la dérive et fragilisée. Grosse inquiétude depuis une chute dans l'eau glaciale. Cyril de la Morinerie, oui. Cette fois, de l'aide est en train d'arriver. Deux Norvégiens sont en route.
Oui, ils sont partis à la rencontre de Mike Horn et son compère Borge Ausland, assis sur la banquise dans le noir total, avec un traîneau chargé de nourriture, un kit médical et une tente pour se couvrir et se réchauffer. Alors selon un dernier pointage, les secouristes ne sont plus qu'à 7 km des deux explorateurs. Le célèbre aventurier de 53 ans a des gelures aux pieds et aux mains, il aurait perdu près de 15 kilos. Mike Horn a fini par accepter de l'aide pour sortir de cet enfer glacial, comme me le confiait l'une de ses filles, Jessica, présente en Norvège.
Ils sont vraiment épuisés et à bout de force. Ils arrivent au bout de leur ration de nourriture, donc ça s'est joué de peu, mais plus que quelques heures de marche avant que les deux équipes se retrouvent et qu'ils soient ravitaillés, et pour qu'ils puissent redescendre jusqu'au bateau qui les ramènera donc à Svalbard.
Voilà, et le retour sur la terre ferme, sur ces îles isolées de la Norvège, est espéré en début de semaine prochaine.
Merci Cyril de la Morinerie. Impressionnant défi que d'aller se
84 jours.
Explorer ça fait 84 l'Arctique.
Jours. Merci beaucoup Sébastien. Toutes les informations concernant ces mouvements, évidemment ces mobilisations à 18h30 de retour, vous êtes dans ce studio. En attendant, Anissa, un département placé en vigilance orange ?
Oui, c'est ça. Et ce département, c'est le département des Ardennes qui est placé en vigilance orange par Météo France pour un risque de pluie verglaçante qui sont prévues aux alentours de 5h du matin jusqu'à midi demain. Donc soyez très prudents si vous devez prendre la route tôt demain matin dans les Ardennes. Pourquoi ? Parce que le sol est froid depuis plusieurs jours. Il fait entre moins 3 et moins 1 degré en fin de journée dans les Ardennes. Et demain, c'est une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest avec de la pluie en Bretagne, en Normandie, dans le centre Val-de-Loire, en région parisienne, sur les Hauts-de-France et les Ardennes, justement, de la pluie tout au long de la journée, accompagnée d'un vent d'ouest et des températures toujours aussi basses. Sur le reste du pays, il fera très beau demain.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy.
Il est sur place en plein cœur de la manifestation parisienne en direction de la Nation. C'est le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Olivier Besancenot est en direct à mon micro dans 2 minutes. Il vient de tweeter. Ce n'est qu'un début. Ses réponses dans 2 minutes.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, alors que se poursuit la manifestation à Paris contre la réforme des retraites, vous recevez ce soir, Nathalie, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, Olivier Besancenot. Il est en plein cœur de Paris, au milieu de la manifestation.
Bonsoir Olivier Besancenot.
Bonsoir.
Vous dirigez vers la place de la Nation hein, ce soir, et vous avez tweeté il y a quelques instants, ce n'est qu'un début, ce n'est que le début d'une démonstration de force, c'est ça ?
C'est le début d'une grande mobilisation sociale. On a fait souvent des parallèles avec l'hiver 1995 contre le plan Juppé. Là, faut savoir que ça démarre beaucoup plus fort qu'en 1995. Voilà, d'abord par le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, c'est extrêmement impressionnant. Nous, on n'est qu'à Voltaire et on est parti du 18e avec des collègues de la RATP, des finances publiques, des écoles, des gilets jaunes aussi, puis même aussi de salariés du privé. Et y a énormément de monde, donc je crois que le gouvernement a du souci à se faire. Et
l'objectif, c'est quoi, Olivier Besancenot ? C'est le retrait pur et simple de cette réforme ?
C'est le retrait pur et simple de cette réforme, puisque le gouvernement a mis la barre à ce niveau-là, en expliquant que finalement, il n'y avait pas de négociation possible, et en expliquant dans la dernière ligne droite que c'était qu'un problème de communication et de compréhension avec Monsieur Blanquer, qui nous a même gratifié d'un doubo en expliquant que les grévistes, c'était des gens qui ne comprenaient pas. Bah, on a bien compris.
Mais comment s'opposer à un texte, Olivier Besancenot, dont les détails ne sont pas encore connus ? Ce sera en milieu de semaine prochaine. Édouard Philippe s'exprimera. Il va donner le projet de cette réforme.
Compris. Mais quand même, vous êtes bien d'accord avec moi que ça fait des mois qu'on en parle. On a une toute petite idée de ce qu'il y a dans cette réforme par point, qui consiste précisément à comptabiliser dorénavant votre retraite sur l'entièreté de votre carrière professionnelle et plus simplement sur les meilleures années. Ça inclut les périodes de chômage ou les périodes de bas salaire. Et quand vous faites une réforme à taux constant, c'est-à-dire en plafonnant les ressources à 14% du PIB, tout en expliquant qu'il y aura plus de retraités, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'évidemment, les pensions mécaniquement vont baisser.
Olivier Besancenot, regardez du côté des enseignants, par exemple, le niveau de pension ne baissera pas, les salaires seront revalorisés, c'est un engagement du gouvernement. Même chose pour les policiers depuis hier soir. La valeur du point, elle sera fixée avec les partenaires sociaux, elle ne pourra pas baisser. Il y a des gages et il va y en avoir d'autres à partir de la semaine prochaine.
Non, mais vous essayez de faire l'avocat du diable, mais vous n'y arrivez pas vous-même, parce que la revalorisation du point dans un pays comme la Suède, par exemple, qui a été cité en exemple par M. Macron, on a la démonstration concrète que le point a pu baisser. Voilà. Et par ailleurs, oui, les enseignants vont perdre, les salariés du privé vont perdre. Et de toute façon, c'est plus moi qu'il faut convaincre. Il y a eu des grands débats, des grandes chroniques, les médias ont fait de nombreuses discussions sur ce sujet-là. Et des millions de personnes ont fait leurs propres calculs.
Alors, qu'est-ce que vous proposez finalement, concrètement, Olivier Besancenot ? S'il y a retrait, qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qu'on propose, c'est de grappiller les 1 ou 2% de PIB qui nous manqueraient pour revenir à la retraite à 60 ans. Voilà. Et qu'on rétablisse en effet l'égalité, de nouveau, comme c'existait avant 1993, entre le public et le privé, mais en nivelant vers le haut et pas vers le bas cette fois-ci.
Mais est-ce que vous entendez qu'au-delà de la réforme systémique, il y a un problème d'équilibre financier ? C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites, le COR, cet organisme qui est indépendant.
Conseil d'orientation des retraites qui, il y a quelques mois, nous expliquait que le système de retraite était financé. Et qui, là, il y a quelques semaines, nous a dit exactement le contraire, avec des estimations assez farfelues, puisque le déficit dont on parle, il est estimé entre 8 à 18 milliards. On n'est pas à 10 milliards près.
Les organisations syndicales, elles en sont, hein, elles participent, les organisations syndicales, au Conseil d'orientation, Olivier Besancenot.
Oui, peut-être, mais les organisations syndicales qui sont dans la rue, elles contestent le fait qu'il y a un déficit. C'est un déficit qui est créé toute pièce. On sait qu'avec le fonds de solidarité qui avait été mis en place sous Jospin, plus les retraites complémentaires, on est largement, aujourd'hui, non pas déficitaire, mais excédentaire. Et que d'ailleurs, l'État, au passage, va se faire pas mal d'argent dans le cadre de cette contre-réforme-là.
Olivier Besancenot, vous pensez deux secondes à la France qui travaille aux commerçants. Ils ont vécu ça déjà l'année dernière et continuellement, à partir du mois de novembre, les Gilets jaunes, vous vous en souvenez parfaitement. On en a parlé souvent ensemble, hein, en direct. Vous pensez deux secondes à cette France qui travaille, à ces gens qui veulent aussi finir le mois de décembre, ces semaines de fête, pour rattraper parfois leur année. Qu'est-ce que vous leur dites à eux ?
Sans passer par les médias, il y en a beaucoup qui nous encouragent. Voilà, beaucoup.
Et ceux qui galèrent, qu'est-ce que vous leur dites à eux ?
Non mais écoutez madame, excusez-moi, mais on galère tous, d'accord ? Et quand j'entends dire des âneries du type les grévistes sont payés pour faire grève, devrait juste constater que nous on claque 1/30 de notre paye, en effet, et qu'on n'a pas le choix d'établir ce rapport de force. Et qu'il y a des professions libérales aujourd'hui qui sont en grève.
Donc
il y a
vous
des
dites...
avocats qui sont en grève. Il y a des artisans, des petits commerçants qui nous soutiennent.
Vous voulez de la durée du mouvement, c'est ça, Olivier Besancenot ? Vous voulez un mouvement durable jusqu'à quand ? Pendant des semaines, jusqu'à quand ?
Mais, excusez-moi, mais votre question me surprend beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est le retrait. Donc si M. Macron prend la parole ce soir en disant face à la contestation qui se développe,
Bien sûr.
De son point de vue, il dirait par exemple on suspend et on rediscute, la mobilisation, elle serait plus la même.
Donc vous continuerez jusqu'à ce que...
Personne ne fait grève par plaisir. Personne ne manifeste par plaisir. Simplement, la coupe, elle était déjà pleine. Vous avez parlé du mouvement des Gilets jaunes. Et là, elle déborde. Et la petite goutte d'eau qui fait déborder tout ça, c'est cette contre-réforme sur les
Olivier
retraites
Besancenot.
Qui est ni plus ni moins que la casse du système des retraites.
Olivier Besancenot, belle unité en tout cas. Jamais les Français n'auraient pu imaginer Marine Le Pen ou les représentants du Rassemblement National et Jean-Luc Mélenchon manifestant comme ça, côte à côte, quasiment. Alors lui, certes, il était à Marseille. Mais regardez, écoutez les éloges qui vont avec.
Même Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça.
Est-ce que vous dites la même chose ce soir, Olivier Besancenot ?
Pour moi, ça sera sans commentaire. Le Rassemblement national n'a rien à voir avec le mouvement ouvrier. Et je prends comme une insulte le fait qu'on puisse dire que j'ai manifesté coude à coude avec Marine Le Pen. On n'a pas à manifester avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, on a manifesté avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui viennent expliquer une chose plus globale, d'ailleurs, qui va au-delà de la question des retraites. C'est que M. Macron, sa politique, il l'amène uniquement pour le marché, qu'il ne connaît pas le mot solidarité et que sa seule optique à lui, en réalité, puisque personne concrètement dans les métiers pénibles qu'on cite, du public ou du privé, pourra travailler dans les faits jusqu'à 67 ou 68 ans, on pourra partir bien avant, même avant 62 ans. Simplement, on aura une retraite de misère, je vais terminer, une retraite de misère, et par voie de fait, on sera contraint de faire appel aux retraites complémentaires, c'est-à-dire ce marché juteux qu'attendent depuis des années les assurances privées.
Olivier Besancenot, juste les violences, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Des blessés, potentiellement, parce qu'on a vu ces violences, on a vu aussi des violences contre les policiers. Il est bon que la France revive cela ?
Il serait bon que le préfet allemand change de stratégie. Pour ma part, la seule violence que j'ai pu percevoir dans la manifestation que j'ai faite, moi, dans mon tronçon à moi, ça a été des gaz lacrymogènes qui nous étaient envoyés dès le début de la manifestation et qui ont coupé la manifestation. Je le regrette, mais je ne tomberai pas dans ce panneau-là.
Merci.
C'est pas un face-à-face entre les manifestants et les forces de l'ordre. C'est un face-à-face entre la population et le pouvoir qui est en place.
Merci beaucoup, Olivier Besancenot, d'avoir répondu ce soir à mon micro sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voix, ils arrivent dans ce studio, leur débat, bien entendu, pour débriefer ce jeudi noir.
Et vous pouvez vous aussi réagir et interpeller les grandes voix. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21, c'est le standard d'Europe 1, jusqu'à 20h. Europe 1. 18h30 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Les grandes voies à suivre et Sébastien Krebs tout de suite pour de nouvelles informations.
Le mouvement de grève reconduit dans les transports demain à la SNCF. Trafic similaire à aujourd'hui. 90% des TGV annulés, 70% des TER supprimés. En Ile-de-France, 15% seulement des Transiliens vont circuler. La RATP paralysée reconduite. 10 lignes de métro à nouveau fermées. Dans l'aérien, même prévision aussi qu'aujourd'hui. 20% des vols supprimés. Air France annule un tiers de ses vols intérieurs et 10% de ses moyens courriers. La forte mobilisation dans la rue. Aujourd'hui, 500 000 de manifestants comptabilisés dans 70 villes. Le gouvernement précise son calendrier. Bilan de la concertation en début de semaine prochaine. Annonce du contenu de la réforme des retraites par Édouard Philippe en milieu de semaine. Dans le reste de l'actualité, par ailleurs, ce nouveau cocorico en biathlon après le quadruplé masculin hier, le doublé féminin aujourd'hui sur le 15 km à Östersund en Suède. Justine Brezaz devient devant Julia Simon, épreuve comptant pour la Coupe du Monde.
Merci Sébastien. Retour avec un nouveau journal complet à 19h. Et du côté de la météo, c'est prudence dans les Ardennes, Anissa, c'est
ça ? Oui, effectivement, puisque le département des Ardennes vient d'être placé en vigilance orange pour un risque de pluie verglaçante prévu demain matin très tôt, hein, donc en fin de nuit, en début de journée, puis jusqu'à midi environ. Alors effectivement, les sols sont froids en ce moment, surtout dans le nord. Et demain, une nouvelle perturbation arrive par l'ouest, avec sur la Bretagne, la Normandie, le centre-Val de Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France et les Ardennes, justement, de la pluie tout au long de la journée, de la pluie sur des sols très froids. Ça donne du verglas, et notamment dans les Ardennes. Alors attention, cette perturbation qui arrive demain, elle est accompagnée de vent d'ouest aussi, hein, qui va souffler assez fort, notamment sur les côtes. À l'avant de cette perturbation, donc au sud de la Loire, la journée commence sous le brouillard, avec dans l'après-midi du Pays Basque, aux Alpes, une journée très ensoleillée. Les températures toujours très froides, moins 5 à Montluçon, moins 3 à Strasbourg, moins 2 à Lyon et Belfort, 1 degré pour Paris demain.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h.
Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrero, vous êtes évidemment en studio. Bienvenue à vous. On va se parler de ce qu'on a vu, ces images, la violence, mais aussi ces cortèges très denses aujourd'hui un peu partout en France.
Vous pouvez réagir et interpeller les grandes voix en direct. Le 3921, c'est le numéro à composer dès maintenant sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou qui répondent aussi à toutes vos questions en direct.
Avec cette mobilisation un peu partout en France, aujourd'hui 70 villes, 510 000 manifestants hors Paris, 250 000 dans la capitale selon la CGT. Alors, nous parlons 18h34 et ces violences qui ont émaillé le cortège. Je voudrais qu'on entende, si vous le voulez bien, Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise. Voilà ce qu'il a dit de ces rassemblements.
Je pense que c'est une date dans l'histoire sociale du pays, que cette mobilisation aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que la direction de la CGT a appelé aux marches ce samedi-ci. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que un certain nombre de professions clés de la vie du pays, transport, éducation, appellent à la reconduction de l'action. Donc on est entré dans un moment dense d'action et de lutte. C'est une mobilisation qui va être un bras de fer.
Catherine Ney, ça y est, c'est le début d'une véritable bras de fer, comme le dit Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchon fait du Mélenchon. Il annonce la révolution, 1 million de gens dans les rues depuis qu'il est élu au Parlement. Et puis, il n'est jamais le leader d'un mouvement. Il suit, il n'est pas l'organisateur de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un grand mouvement? Moi, je mesure mal, enfin, par rapport aux grandes grèves, manifestations qu'il y a eu, ne serait-ce que en 2010, sur la réforme, où au moins, c'était une réforme claire. On savait, on allongeait la durée de l'âge plutôt de 60 à 62 ans. Là, on savait où on allait. Les Français savaient pourquoi ils manifestaient. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus vague. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? On a tellement dit qu'il devait y avoir du monde. Oui, c'est vrai, il y a du monde. Bon, alors bon, et on sait très bien
c'est
que
c'est pas ras-marée, c'est ce que vous nous dites.
On est très loin du raz-de-marée.
On est très loin du raz-de-marée. Il y a du monde.
Très loin.
Il y a du monde. Et puis, ça va durer, oui, puisque la grève va être reconduite jusqu'à lundi. Bon, on se disait bien que ça n'allait pas s'arrêter le vendredi ou le samedi. Donc, le problème, c'est après lundi. Qu'est-ce qui se passe? Oui.
Alors, les syndicats disent Paris réussi, Gérard Carrérou, jusqu'à présent.
Tout le monde est dans son rôle.
Vous savez,
les organisateurs ont toujours tendance à être contents de leur organisation. Donc, ça, c'est un peu normal. Moi, je vais essayer d'être serein. Enfin, je veux dire, j'ai regardé...
C'est ta nature.
Comme mes camarades, oui, j'ai regardé pendant toutes ces heures.
Serein et bonhomme.
Toutes ces heures, j'ai regardé effectivement les chaînes qui montraient en direct. Bon, les diverses chaînes pour essayer justement d'avoir un panoramique, comme on dit. honnêtement, à mon sentiment, ce n'est pas un raz-de-marée et ce n'est pas cette espèce d'apocalypse que certains avaient cru pouvoir prédire dans les dernières semaines. Ce n'est pas 1995, ce n'est pas 2003, ce n'est pas 2010. La chance des vieux, c'est d'avoir vécu toutes ces dates et d'avoir vu de visu. Donc, alors, est-ce que ça veut dire que c'est un échec ? Pas du tout. Il y avait du monde, vous avez donné des chiffres.
Et de la détermination.
Il y avait du monde. Alors, il y avait de la détermination, parce qu'il y avait beaucoup de... Les pourcentages de grévistes dans effectivement, à la SNCF, à la RATP, dans l'éducation nationale et dans d'autres secteurs sont très importants. Très, très importants. Le nombre de manifestants dans un certain nombre de villes de province, j'ai été là aussi, j'ai vu des 10 000 ici, 20 000 là, 30 000 ailleurs. C'est important selon l'importance de ces villes. Certaines villes moyennes, pas des grosses villes, ont eu quand même énormément de monde. Et puis, si on ajoute Paris, on n'a pas encore les chiffres pour Paris, mais en gros, ça fera 600 et quelques mille personnes. C'est beaucoup, c'est deux fois plus que les 300 000 gilets jaunes de la première journée des gilets jaunes.
C'est bon, quand même là mais, où on peut comparer, parce que c'est effectivement les événements les plus récents.
Mais je dirais, pour finir là-dessus, provisoirement, globalement, c'est un peu un match nul. Le gouvernement n'est pas enfoncé, le gouvernement n'est pas défoncé, il reste des marges de manœuvre négocier.
Tout ce qui va faire la différence, Charles Villeneuve, c'est la durée de ce mouvement. Alors, on annonce Édouard Philippe, prise de parole milieu de semaine prochaine.
Mais il l'a pris, la parole, tout à l'heure.
Oui, mais il la reprendra mercredi prochain.
Il vous a adressé un message, d'ailleurs.
Ah, personnellement ?
Oui,
personnel,
tout à fait. Puisque vous êtes là, vous, avec vos oreilles, pour écouter et analyser, il vous a adressé un message. Il a remercié les syndicats d'avoir bien tenu la manifestation.
Absolument.
Ce qui veut dire bien sûr, bien sûr. Entre le 8 décembre, ils diront, sans doute le Premier ministre, mais pas seulement, ils diront quel est l'état de la réforme qu'ils vont annoncer. En tout cas, le mur qu'on avait annoncé, si vous voulez, infranchissable de manifestations et de grèves, il est fissuré. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il adresse un message aux syndicats, il les remercie d'avoir tenu tout ça. Parce que, évidemment, moi je fais un pari, et d'ailleurs, non pas celui de Mélenchon ou de la CGT, mais je pense qu'il n'y avait pas plus de 50 000 personnes à Paris. Et on verra tout à l'heure, d'ailleurs, on verra les chiffres. Mais les syndicats pourront se targuer de cortèges bien remplis, d'une grève suivie. Mais c'est insuffisant.
Insuffisant, dit Charles Villeneuve.
Pour que le gouvernement plie.
Pour qu'il plie les gaules, oui.
D'ailleurs, il y a un sondage paraît que pour 70% des Français, la réforme se fera.
Alors, on voit ça dans un instant, si vous le voulez bien, dans quelques secondes avec les grandes voix.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Et les auditeurs aussi avec Kevin de Nantes. Bonsoir Kevin, bienvenue au micro d'Europe 1. Kevin, vous êtes enseignant, vous ?
Oui, je suis enseignant. Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Oui, je suis enseignant solidaire du mouvement, mais pas forcément partisan du statu quo. Bon, en fait, je voulais vous appeler ce soir parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on sorte par le haut de cette crise. Enfin, je vais proposer une idée comme ça de méthodologie en disant on met un stop là maintenant. On demande à tous les partis politiques, les grands partis politiques, ceux qui sont représentés au Parlement, de soumettre des contre-projets. On fait évaluer tous ces contre-projets et le projet initial par la Cour des comptes. On organise des débats contradictoires et à la fin, on fait voter les Français. Et si possible, on les fait voter au jugement majoritaire, c'est-à-dire que chaque électeur va évaluer chacun des projets en lui attribuant une mention très bien, bien, assez bien. Et à la fin, on sort, on retient le projet de retraite parce que c'est quelque chose qui nous engage le plus consensuel finalement dans le français. Qu'est-ce que soit le projet
un référendum,
soit retenu,
donc.
Ouais, un référendum. Et on appelle ça dans l'association, j'ai parti, un préférendum.
D'accord.
On vote sur plusieurs projets.
Alors, merci beaucoup, Kevin, très inspiré depuis Nantes. Et Kevin, âgé de 32 ans, qui est enseignant, et on sait combien c'est compliqué pour les enseignants de faire grève. C'est 90 euros de perte par jour. Charles Villeneuve, c'est une possibilité.
En tout cas, là où je trouve que notre camarade Kevin a une très bonne idée, Kevin, c'est de faire évaluer justement la contre-proposition ou toutes les propositions par la Cour des comptes. Je trouve notamment que l'une des pierres angulaires de cette réforme, c'est le financement de la réforme. Et bien évidemment, d'ailleurs, c'est ce qui pose problème, on le sait, puisque le corps
Le Conseil d'orientation des retraites.
Exactement, a précisé que le déficit serait en 2025 entre 8 milliards et 20 milliards.
Voilà, c'est aussi là-dessus que s'appuie le gouvernement, Catherine Ney.
Oui, surtout que la première injustice d'une réforme des retraites, c'est quand elle n'est pas financée et qu'on peut envoyer un problème. Mais quand ce professeur très courageux dit « on va faire évaluer », mais s'il fait évaluer par la Cour des comptes, la Cour des comptes, elle regarde quoi ? Si ça coûte trop cher pour l'État et si l'État est capable de financer ses retraites. Bon, prenons le cas des professeurs qui, en ce moment, se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Et c'est vrai que si on fait une réforme paramétrique, c'est-à-dire que, et par points, ça veut dire que, eh bien, ça ne seront plus les 6 dernières années de leur vie professionnelle qui seront comptées, mais du début jusqu'à la fin, donc ce qui veut dire qu'ils gagneront moins. Si on écoute ce jeune professeur qui dit, mais essayons. La Cour des comptes dira, mais qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Parce que Blanquer a déjà donné une réponse. Il dit qu'il faut que les professeurs soient mieux payés. Mais ça va coûter quel argent qu'ils soient mieux payés ? Moi, je trouve qu'ils sont mal payés. Je suis tout à fait pour que les professeurs soient mieux payés. Et qu'en plus, quand ils débutent, c'est peut-être le moment où c'est le plus dur. Hein.
Absolument.
Bon. Et donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais combien ça coûte ? Parce que si on fait aussi cette réforme, c'est aussi pour qu'elle soit finançable. Ouais. Donc, ça veut dire aussi que si on commence à mieux payer, plus juste. Mais si elle est plus juste, elle coûtera plus cher, mais sauf à faire travailler plus longtemps les professeurs.
Oui,
voyez,
il faudra 600 euros, hein, c'est ce que craignent les enseignants.
Catherine, tu as raison, il faudra les deux. Il faudra maintenir un certain nombre de régimes particuliers, parce qu'on parle des régimes spéciaux, en fait, ceux qu'on voudrait véritablement faire disparaître peu à peu, c'est la SNCF et la RATP. Oui. Les autres, les avocats les enseignants, les infirmières, tout ça, il faudra trouver des adaptations.
Mais c'est ce qu'ils commencent à faire d'ailleurs, Gérard Carrère. Vous avez entendu Christophe Castaner qui a dit aux policiers hier,
je retiendrai de ce qu'a dit Kevin une chose, il dit il faudra une sortie par le haut. On voit déjà, après cette journée d'aujourd'hui, on voit les éléments de la sortie par le haut, c'est-à-dire d'une négociation qui débouche. Et il y en a plusieurs. Il y a la pénibilité, il faudra lâcher un petit peu de choses sur la pénibilité pour faire plaisir à la CFDT, ça c'est clair. Il faudra, sur les femmes, remettre un peu d'ordre, parce qu'il y a effectivement, les femmes seraient perdantes en l'état. Et puis troisièmement, il y a un truc formidable, c'est la transition. C'est-à-dire à quel moment on met en œuvre la réforme. On avait parlé du grand-père, ça ne sera pas le grand-père, mais ça sera le demi-grand-père. Autrement dit, ça sera à partir de 2030 ou 2035.
On se retrouve dans une seconde. Charles, je vous donnerai tout de suite la parole. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Nathalie Lévy autour de vous ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Gérard Carrérou, lundi, ce sera quand même un premier tournant, non ? Je dis ça parce que, pardonnez-moi, lundi, on aura quand même les gens qui vont devoir retourner travailler. Là, ils se sont organisés, RTT, etc. Lundi, on fait comment ?
Alors d'abord, lundi, il n'est pas sûr que ça soit tout à fait fini. Parce que pour autant, on a l'air de... Enfin, il me semble qu'on va aller vers quelque chose qui ne durera pas 3 semaines. Ça, c'est clair. Mais lundi, il est possible que ça soit encore un jour de grève, effectivement. Demain, ça le sera.
C'est prévu. Lundi
c'est prévu,
inclus.
Voilà. Donc, mais il y a quand même quelque chose... quand on a fait le bilan tout à l'heure, il y a un élément qu'on n'a pas abordé. À mon avis, c'est quelque chose qui abîme beaucoup la journée du côté des manifestants, c'est les casseurs. Vous savez, les casseurs, alors vous me direz, on est habitué maintenant, parce qu'il ne peut plus y avoir une grande manifestation à Paris sans qu'il y ait des déprédations, des casseurs, etc. Mais finalement, ça abîme. Ces gens-là, je ne sais pas d'où ils viennent, et je ne sais pas pour qui ils travaillent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils contribuent à abîmer la manifestation dans laquelle ils s'insèrent comme des sangsues.
Mais c'est ce qu'ils veulent.
Oui, non, mais ils abîment fortement. Là, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont repartis, des gens sincères, qui vraiment voulaient manifester parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'Arthur, etc., et qui sont repartis, et qui repartent, parce qu'ils ne sont pas encore tous repartis, mais à l'heure où on parle, qui repartiront furieux avec le sentiment qu'on leur a, une fois de plus, volé leur belle journée de manifestation, etc. Il faudra un jour ou l'autre trouver le moyen d'éviter. Parce que c'est un produit spécifiquement français, les casseurs.
Oui, mais justement, ce qui abîme le plus, c'est qu'il y a des casseurs. On voit qu'ils abîment beaucoup de choses, qu'ils brûlent des voitures, qu'ils cassent des magasins. Et on ne sait jamais, alors on dit, il y a des arrestations, on ne sait jamais s'ils ont été condamnés. Il n'y a aucune publicité de savoir est-ce qu'ils ont fait condamner à 10 mois de prison, 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne sait rien. Donc, pour les gens, C'est l'impunité totale. Certains font de la prison, sont en ce moment en prison. Et on ne le sait pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'avais même demandé à la garde des Sceaux. Elle me dit « Ah, mais je pourrais vous le dire si vous... » Bon, mais il se trouve qu'on ne le dit pas. Et ça crée un malaise dans l'opinion. On a l'impression qu'on peut aller casser et vraiment pas vu, pas pris.
Charles Villeneuve, les mobilisations, les violences, on a vu depuis les Gilets jaunes aussi, ce que ça a engendré sur la manière après dont le gouvernement agissait.
C'est-à-dire
soit les mobilisations et la violence finalement le font céder durablement, comme ça s'est passé d'ailleurs dès décembre 2018 avec l'enveloppe.
D'abord, tout à l'heure, Gérard, à l'instant, disait on ne sait pas qui c'est, on sait qui c'est. La plupart ont été identifiés, par exemple, ceux qui ont fracassé, brisé la stèle du maréchal Juin, le chef de l'armée d'Italie. On sait que ce ne sont pas des Black Blocs, ce sont des ultra-jaunes. C'est un renseignement que m'a donné le service de renseignement, justement, de la préfecture de police.
C'est-à-dire des jaunes radicalisés.
Oui, c'est ça.
Mais tu vois, c'est parce que tu as tes entrées à la préfecture de police que toi, Charles Villeneuve, arrives à le savoir. Mais je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui vient le dire. Il n'y a pas une autorité de la préfecture de police qui vient le dire pour rassurer les gens.
Mais je ne suis pas le porte-parole de la préfecture de police. Donc,
mais je n'ai jamais dit ça. Donc, je dis que tu fais du journalisme et tu apportes à l'OZ.
Vous êtes allé chercher l'information.
J'ai envie d'avoir.
Oui, très bien.
Et on te remercie pour
d'être allé chercher l'information.
On en attrape très peu. En fait, le problème, c'est qu'on en juge très peu parce qu'on en attrape très peu. On en attrape ici une dizaine ou une douzaine à chaque manifestation de ce genre.
Ils ont eu notamment par rapport, si tu veux, à la traduction devant les magistrats, ils ont un problème, c'est qu'ils cassent, ils ont brisé quasiment la plupart des caméras, des vidéos. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les policiers se servent de plus en plus de drones pour les identifier, les films avec des drones. La mise en place, par exemple, du service d'ordre cette nuit, tous ceux qui, ce matin, se sont promenés au milieu de ce service d'ordre, ce que j'ai fait en même temps que d'autres journalistes de la rédaction, on s'est aperçu qu'ils avançaient beaucoup avec des drones. Bon, il n'y avait pas tellement de VBRG. C'est la raison pour laquelle, contrairement...
Tu les as vus, les drones ?
Oui.
Ah bon ?
Notamment aux alentours de l'Élysée et pas loin du ministère de l'Intérieur. C'est la raison pour laquelle...
C'est de l'information.
Ça, c'est de l'information.
Des drones français, en plus. Parce qu'on commence à en avoir.
Non, ça n'a rien à voir avec les...
Tous nos drones militaires
étaient américains. Non, mais ça n'a rien à voir avec les drones militaires. Ce ne sont pas des drones militaires,
c'est des tout petits drones, comme on en trouve,
plus petits
même
drones.
Pour les gamins dans les lieux.
Absolument. Voilà.
Voilà. Alors, sur les violences, mais du coup, il y a les violences, il y a lundi... Il y a l'accumulation de ce qui va se passer ce week-end.
Et
il y a samedi prochain. Attendez, il y a samedi prochain. Nouvel appel à mobilisation.
Oui.
Il a dit Jean-Luc Mélenchon.
On va annoncer le Premier ministre.
Oui, mais Nathalie, la date clé, c'est l'annonce du dispositif au lendemain du 8 décembre.
Il y a Delbois qui part et le Premier ministre en
plein. Et tout à l'heure, j'avais une discussion dans la rédaction avec Michaël Darmon, qui est au service politique et qui a beaucoup d'informations, qui va d'ailleurs à l'information. Lui aussi, notamment auprès du Premier ministre, auprès de l'Élysée, etc., et qui, lui, est intimement convaincu, je rapporte ses propos, en tout cas, intimement convaincu qu'ils ont déjà complètement tout le dispositif, celui dont tu parlais tout à l'heure, il faudrait faire quelque chose pour les femmes, quelque chose pour ceci, pour
ceci. Donc par corporation et par... Donc par corporation, par secteur, etc.
Il est très vraisemblable que ça va satisfaire, en tout cas, ça va calmer sans doute les esprits, c'est le but. Et pas mal d'angoisse aussi, d'anxiété.
Donc vous êtes relativement optimiste pour la semaine prochaine.
Je ne suis pas pessimiste comme on aurait pu l'être en écoutant tout ce qui se disait au début de la semaine dernière.
Pardonnez-moi, je me fais l'avocat du diable. Moi, je ne comprends pas pourquoi, après 2 ans de concertation, de réunion autour de Jean-Paul Delevoye, on attend de voir cette mobilisation, de voir ces violences.
C'est peut-être une stratégie.
C'est peut-être une stratégie, alors.
Oui.
C'est peut-être une stratégie. Et ça veut dire qu'Emmanuel Macron, il n'est pas à un tournant là, de son quinquennat.
C'est une stratégie qui consistait. Certains l'ont décrite, certains sociologues. Une stratégie qui consiste à dire il faut laisser la chienlit d'une certaine manière. Il faut que les gens évacuent leur colère et après on discute.
Voilà.
Mais il n'est pas dupe. Il sait très bien que ce qui est en jeu, c'est sa réélection de 2022. D'ailleurs, dans les cortèges, tout à l'heure vous avez cité Mélenchon, il y avait tous ceux qui ont été battus en 2017, par Emmanuel Macron, qui sont là et qui, évidemment, espèrent espère beaucoup
elle
Marine
Le Pen.
Hein, sauf Marine
elle
Le Pen.
Était pas là, mais, qui était là par l'esprit, hein, puisqu'elle l'avait dit. Hein. Merci beaucoup les grandes voix, en tout cas, d'être venues dans ce studio ce soir. On va suivre de très près dans un instant avec Sébastien Krebs, ce qui se joue encore dans les cortèges à l'heure qu'il est.
À suivre Nathalie Lévy, donc, le journal de 19h.
Les prévisions de trafic aussi, et puis on fait un point d'étape à Paris notamment et à Toulouse.
Et vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite, Nathalie Lévy.
Avec 19h10, l'invité politique ce soir, Olivier Dussopt, dans ce studio, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. 19h20, spécial COP25, un COP depuis le début de la semaine sur les 5 continents. On y est cette semaine, direction le Sénégal, ce soir notamment.
Vous écoutez Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Bonne soirée avec Europe 1, il est 19h.
Moi, je suis prêt à perdre énormément jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur réforme pour ne pas perdre plus quand je serai vieux.
L'ampleur de la contestation, 740 000 manifestants à travers la France selon les autorités contre la réforme des retraites.
Nous serons à Toulouse et à l'arrivée du cortège parisien où de nouveaux incidents éclatent ce soir.
Et ce n'est que le premier acte, mouvement reconduit dans les transports, trafic SNCF identique pour demain, perturbation dans les aéroports, à la RATP, la paralysie étendue jusqu'à au moins lundi.
Toutes les prévisions dans un instant et c'est une guerre du jour qui s'engage.
Sérénité et détermination affichées par le gouvernement. Le contenu de la réforme des retraites sera annoncé en milieu de semaine prochaine.
Un coup d'œil vers le ciel, Anissa ?
Avec le département des Ardennes qui a été placé en vigilance orange pour un risque de pluie verglaçante prévue à la fin de cette nuit et jusqu'à la mi-journée demain. Soyez très prudents dans le secteur. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
La tension était retombée après de violents incidents en début de manifestation. Mais ce soir, les affrontements ont repris en marge du cortège parisien. Mathieu Bock, vous êtes sur place, place de la Nation.
Oui, ce sont des petits groupes de Black Bloc qui attaquent les gendarmes mobiles avec des fumigènes ou des pétards. La réponse, elle est bien simple, hein. Ce sont des gaz lacrymogènes pour disperser ces manifestants cagoulés et casqués. Un peu plus tôt dans la journée, des affrontements avaient déjà eu lieu à proximité de la place de la République. Les manifestants avaient été bloqués, empêchés d'avancer une bonne partie de l'après-midi. Le temps pour les forces de l'ordre d'évacuer les casseurs qui avaient brûlé une cabane de chantier, des poubelles et des trottinettes électriques. Actuellement donc, la fin du cortège est sur le point d'arriver sur la place de la Nation avec évidemment plusieurs heures de retard.
Mathieu Bock, depuis la place de la Nation à Paris où la CGT revendique 250 000 manifestants. Selon nos informations, au moins 57 interpellations ont eu lieu dans ce cortège parisien.
Une très forte mobilisation donc un peu partout dans le pays. Au total, 740 000 personnes selon la préfecture, les autorités. Le nombre de manifestants établi dans 70 villes. Gros cortège, notamment à Marseille ou encore à Toulouse.
À Toulouse où l'on va retrouver Benjamin Peter. Benjamin, plus de 30 000 personnes. Hein. Dans les rues de Toulouse, selon la préfecture.
Oui, même trois fois plus selon la CGT, mais au-delà de la bataille de chiffres, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde défiler dans les rues de Toulouse. Une démonstration de force, donc, mais qui sera difficile à maintenir sur la durée, comme le reconnaît Karima, qui est animatrice dans une école.
Personnellement, je ne pourrais pas. Aujourd'hui, financièrement, je perds une demi-journée, puisque j'ai travaillé ce matin, j'ai commencé à 7h30, je perds 35 euros sur 70 euros la journée. Pour moi, c'est un coût. Sur du long cours, c'est très difficile. Mais voilà, si je peux le faire deux heures par-ci, deux heures par-là, je le ferai.
Mais pour Gilles, qui est infirmier, c'est perdre un peu aujourd'hui pour éviter de perdre beaucoup demain.
Jamais une grève a été aussi rentable. S'ils nous prennent presque entre un quart et un tiers de nos pensions, de nos retraites, quand on sera vieux, donc perdre ce qu'on perd par jour de grève, c'est dérisoire à côté, c'est des mathématiques, ça. Moi, je suis prêt à perdre énormément jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur réforme pour ne pas perdre plus quand je serai vieux. Je ne sais pas quelle sera mon espérance de vie avec le monde qui nous prépare, mais bon.
Voilà, alors en fin de manifestation, les forces de l'ordre ont utilisé le canon à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les derniers manifestants. Et désormais, le calme est en train de revenir dans le centre-ville.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Un fonctionnaire sur cinq était en grève aujourd'hui. Plus de la moitié des cheminots et des enseignants. Forte mobilisation qui réjouit le patron de la CGT, Philippe Martinez.
Il faut reprendre la copie à zéro. L'acte 2, c'était on vous écoute, on a compris, on va être plus social. Bah là, c'est vraiment la bonne occasion pour montrer qu'il est capable de faire ce qu'il dit. En tout cas, je pense que le mouvement est bien parti pour être reconduit. En tout cas, s'il n'y a pas de réponse du gouvernement, nous, c'est ce que dit la CGT. Et on trouvera avec nos camarades des autres organisations syndicales toutes les formes appropriées pour que ce mouvement puisse durer.
Philippe Martinez, le leader de la CGT, au micro d'Olivier Samain.
Emmanuel Macron, lui, se dit calme et déterminé. Le gouvernement répète qu'il reste des marges de négociation.
À l'issue d'un conseil des ministres organisé ce matin, des précisions ont été apportées sur le calendrier. Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye dressera le bilan de la concertation en début de semaine prochaine, et c'est ensuite le Premier ministre Édouard Philippe qui annoncera en milieu de semaine le contenu précis donc de cette réforme des retraites.
Et on va poursuivre avec la paralysie qui continue, notamment sur les rails. Aurélien Fleureau, mouvement reconduit à la SNCF et à la RATP. Il faut s'attendre à une nouvelle journée morte demain.
Oui, ce sera quasiment pareil demain, hein, avec du côté de la SNCF, un TGV sur 10, un Ouigo sur 6, une petite douzaine de trains intercités et un réseau TER quasi nul en Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et dans les Hauts-de-France. Des cars de substitution rouleront surtout en Auvergne-Rhône-Alpes et puis en Nouvelle-Aquitaine. Il y aura un Eurostar sur deux et puis seulement 15% du trafic transilien assuré. En Ile-de-France, justement, la RATP a annoncé des prévisions, là aussi très similaires à celles d'aujourd'hui. 10 lignes de métro fermées, un RER A sur 2, 1 sur 3 pour le RER B, mais uniquement aux heures de pointe, c'est-à-dire 6h30, 9h30 le matin et puis 16h30, 19h30 le soir. Les cheminots de la SNCF se réuniront demain pour voter la poursuite de la grève. Ce sera certainement le cas pour ce week-end et pour le début de semaine prochaine. À la RATP, les syndicats ont déjà fait savoir que le mouvement allait au moins durer jusqu'à lundi inclus.
Les précisions d'Aurélien Fleureau, vous retrouvez toutes les prévisions de trafic en détail sur europe1.fr.
Écoute des écoles, Sébastien, c'est encore le flou pour demain ?
Oui, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas ce soir de prévisions claires. À Paris, par exemple, la mairie parle de 200 écoles qui vont encore rester fermées. Dans 155 écoles, il pourrait y avoir au moins 25% d'enseignants grévistes. En fait, dans le primaire, le préavis de grève étant illimité, les instituteurs n'ont plus d'obligation de déclarer la reconduction à l'avance. Il faudra voir donc demain matin qui se présente dans les établissements scolaires. L'intersyndicale FSU se réunit à 9h demain matin. Les syndicats qui envisagent de décider d'un nouveau temps fort, la piste d'une nouvelle mobilisation le 10 décembre, donc mardi prochain, est envisagée donc, pour l'enseignement.
Merci Sébastien. Toutes ces informations qu'on retrouve avec vous à 19h30 et d'autres. De la pluie demain, Anissa ?
Oui, effectivement, c'est le retour de la pluie, Nathalie. Alors attention, si vous nous écoutez sur le quart nord-ouest de la Bretagne aux Ardennes, le début de journée est très pluvieux, accompagné de vents d'ouest jusqu'à 80 km/h. Alors justement, le département des Ardennes a lui été placé en vigilance orange pour risque de pluie verglaçante. Les sols sont très froids et il va beaucoup pleuvoir demain matin. Donc en fin de nuit et jusqu'à la mi-journée, ce département des Ardennes est placé en vigilance orange pluie verglaçante. Au fil des heures, ces pluies, elles vont se décaler vers l'est pour toucher les Pays de la Loire, la Bourgogne, le Nivernais et le Jura. À l'avant de cette perturbation, donc plus au sud sur le reste du pays, au sud de la Loire, de la Gironde, au Pays Basque, de l'Alsace à la Côte d'Azur, et bien là, la journée est assez ensoleillée demain. Les températures, elles sont encore très froides le matin. Moins 6 à Mout, c'est dans le Doubs, c'est la ville qu'on appelle la Petite Sibérie. Moins 3 à Metz et Auxerre, 0 à Clermont-Ferrand, 1 degré pour Paris. 11 degrés en moyenne demain après midi sur toute la France.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
L'interview politique dans un instant avec vous, Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir.
Qui répond à vos questions ce soir ?
Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. On va parler des retraites.
L'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, place à l'interview politique.
Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Bonsoir Olivier Dussopt.
Bonsoir.
Est-ce que vous êtes prêt à renoncer au rétablissement de l'équilibre financier du régime de retraite avant le passage au système par points ?
Le rétablissement de l'équilibre est une condition importante. Et il y a deux aspects à avoir en tête. Premier aspect, c'est quel système nous construisons ? C'est un système par points, c'est un système universel, c'est un système équitable. Et c'est un système qui doit être durable, viable, pour qu'on n'ait pas tous les 5 ans, comme c'est le cas depuis maintenant 20 ans, à avoir une réforme des retraites. Et puis, il y a la situation du système actuel. Et ce système, nous savons qu'il génère actuellement des déficits, et le Conseil d'orientation des retraites l'a dit. Pour que le système à venir soit équilibré, c'est bien de ne pas partir avec un boulet au pied qui s'appelle la dette. Ça fait partie des points de difficulté. Nous savons qu'un certain nombre de partenaires sociaux, je pense
la
à la CFDT,
ne
souhaitent pas de mesures qu'on qualifie de paramétriques. Eux-mêmes disent qu'il faut que le système soit équilibré, mais nous pouvons diverger sur les hypothèses du système d'équilibrage. Nous allons, dans les prochains jours, avoir à prendre un certain nombre de décisions. Quand je dis nous, c'est le gouvernement. Le haut-commissaire termine ses consultations. J'étais encore avec lui hier matin pour rencontrer les organisations syndicales des douanes. Et il va rendre ses conclusions, il va rendre la synthèse de ses concertations et le Premier ministre s'exprimera.
Mais ça peut être une option sur la table justement pour avoir de votre côté la CFDT qui, elle, est le seul syndicat qui est pour le régime par points.
Ça n'est pas tout à fait le seul. En tout cas, ce n'est pas le seul à vouloir un système universel, même s'il peut y avoir des divergences sur les approches ou encore des interrogations auxquelles il faut apporter des réponses. Je répète, il faut qu'on trouve le moyen, la voie de passage pour à la fois avoir un système qui soit équilibré dans le temps. Parce que
dans
c'est
le temps,
important.
Pas forcément avant
c'est
la mise en œuvre.
C'est important d'avoir un système qui soit équilibré. C'est important d'avoir un système qui soit accepté par tous. Mais je le répète, on ne peut pas mentir aux Français, on ne peut pas reporter, comme on le fait depuis des générations, le fardeau d'une dette sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc il faut trouver cette voie-là. Ça fait partie des discussions, et je le répète une seconde fois, si vous me permettez cette mauvaise formulation, le Premier ministre va rendre des arbitrages qui sont extrêmement importants.
Arbitrage extrêmement important, là, qu'on aura la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine.
L'architecture de la réforme et des précisions seront apportées. Il va dire ce qu'il retient des concertations. Il a déjà ouvert un certain nombre de pistes de discussion. Il a dit qu'il avait entendu la CFTC, par exemple, sur les droits familiaux, la CFDT sur la question de la pénibilité. Il a dit aussi qu'il inscrirait dans la loi cadre, celle qui sera votée au premier semestre 2020, un certain nombre de garanties pour ce qui concerne les agents publics, dont je m'occupe plus particulièrement. La garantie de compensation pendant la période transitoire pour les enseignants, de façon à ce qu'ils ne soient pas perdants, mais aussi des garanties comme un minimum de retraite à 1 000 euros, ou encore le fait que la valeur du point soit aussi garantie. Ça fait partie des éléments, et je crois, des réponses à l'inquiétude, aux interrogations qui ont pu être exprimées aujourd'hui.
Alors, il reste des marges de négociation, c'est ce que dit la porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Par exemple, sur les périodes de transition, on oublie une mise en œuvre pour la génération 63. Vous nous dites que ça peut être effectivement... plus tard, mise en œuvre plus tard.
Je vous le dis d'autant plus pour la génération d'entrée dans le système. Je vous le dis d'autant plus que le Premier ministre l'a dit lui-même mercredi dernier.
Mais on ne sait pas encore quelle génération.
Non, parce que ça fait partie des discussions. Ça fait partie.
73, c'est ce qu'on lit dans la presse ce matin, par exemple.
J'ai lu un certain nombre d'articles parlant de 73. Il y a d'autres hypothèses sur d'autres années. Ce n'est pas, si vous me permettez, ce n'est pas une question d'années. Ce n'est pas une négociation, on dit 72, 73,
67. Ça intéresse les gens de savoir à quel âge ils basculeront dans le nouveau système.
Évidemment, mais ça fait aussi partie des espaces de discussion qui sont ouverts. De la même manière que le Premier ministre a aussi dit que nous allons vers un système universel, ce que j'appelle moi la maison commune des retraités, un système où lorsque vous cotisez 1 euro, vous avez le même rendement en tenant compte des suggestions, en tenant compte de la pénibilité, mais un système qui soit juste. Sauf qu'aujourd'hui, on part de 42 systèmes différents. Des systèmes différents et des systèmes injustes. Et quand on part de 42 points de départ différents et qu'on va vers un point d'arrivée commun, c'est bien de penser des transitions qui soient un peu différenciées, un peu différentes, parce que par définition, on n'a pas le même chemin à faire.
Selon les secteurs. La mobilisation d'aujourd'hui, on a vu beaucoup de monde dans la rue, les transports largement bloqués côté RATP et SNCF. Combien de temps vous pensez que les Français vont devoir endurer ces blocages?
La mobilisation est importante et elle est à la hauteur de ce que nous attendions. Dans le secteur public, pour les trois versants de la fonction publique, on a un taux de grève d'à peu près 25-26%, ce qui correspond peu ou prou, un tout petit peu moins, à ce qui avait été connu en 2010. Ça n'est pas un raz-de-marée, mais c'est une mobilisation qui
est forte.
Et qui est forte, qu'il faut reconnaître avec l'expression d'un message. J'ai entendu que les organisations syndicales du secteur des transports avaient annoncé la reconduction de leur grève jusqu'à lundi.
La RATP.
À titre personnel, je trouve que c'est loin et que les Français, les usagers, gagneraient tous à ce que les métros, les RER, les trains circulent et que tout le monde puisse aller travailler et vaquer à ses occupations. Je souhaite que ce soit le plus court possible. Et j'ai la conviction que les arbitrages, les décisions qui seront annoncées par le Premier ministre apporteront ces réponses-là.
Quelle garantie vous pouvez apporter, vous, aux fonctionnaires, 21% de grévistes dans la fonction publique, quelle garantie vous pouvez leur apporter?
21% à midi et un tout petit,
et
peu,
un petit
plus
peu plus ce soir. Quelle garantie vous leur apportez pour leur retraite?
Je leur garantis qu'ils ne seront pas les perdants du système. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont des règles de calcul de la retraite qui sont particulières, notamment sur les 6 derniers mois. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que la retraite des fonctionnaires ne tient pas compte, ou quasiment pas compte, c'est vraiment très marginal, des primes, et les primes représentent une part importante de leur salaire. Donc certes, on dit que les fonctionnaires ont un taux de remplacement à la retraite qui est assez important. Sauf qu'il est important par rapport au traitement indiciaire, sans tenir compte des primes. Nous avons déjà dit qu'avec cette réforme, nous allons intégrer les primes dans l'assiette de cotisation.
Ça, c'est sûr, c'est un engagement formel.
Nous l'avons dit, c'est une préconisation du rapport Delevoye et ça participe pour nous de l'universalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle des fonctionnaires, en moyenne, et c'est une moyenne avec des écarts énormissimes, mais en moyenne, les primes représentent 23% de la rémunération d'un fonctionnaire. Ça veut dire que 23% de la rémunération des agents publics ne compte quasiment pas, on peut même dire que ça ne compte pas pour leur retraite. Demain, ça va compter. Et c'est évidemment une bonne nouvelle pour le calcul du niveau de la pension. Après, ça nous invite, ça nous oblige même à traiter des situations plus particulières. J'ai évoqué tout à l'heure les enseignants.
Les enseignants, justement, Jean-Michel Blanquer dit que pour garantir leur retraite, les rémunérations vont augmenter.
Il a raison.
Vous avez trouvé de l'argent magique à Bercy ?
Il a raison, puisque les enseignants ont une situation particulière, puisqu'en moyenne, ils ont entre 6 et 9% de primes, contre 23 en moyenne ailleurs. Et certains enseignants n'ont même aucune prime dans leur traitement. Pour accompagner les enseignants, ça n'est pas brutal, ça n'est pas d'un coup. C'est de regarder quand est-ce que la réforme se met en œuvre. Le rapport de Jean-Paul Delevoye préconise que ce soit en 2025. Combien de temps dure la transition ? Avec quelle vitesse monte en puissance les nouvelles règles dans le calcul de la pension ?
Mais où vous trouvez l'argent pour augmenter les rémunérations ?
Et il faut faire monter les rémunérations, notamment des enseignants, pour combler ce différentiel au même rythme que celui où on met en œuvre la réforme. On va pouvoir définir et évaluer précisément combien il faut pour cela lorsqu'on connaîtra tous les paramètres. On sait que à l'échelle de 15 ans, ça va représenter quelques milliards d'euros. Quelques milliards d'euros, mais non pas en une fois, de manière très progressive et sur la durée de la transition. Et si la transition est prévue pour 15 ans, ça sera pour 15 ans. Donc, il faudra qu'on trouve ces moyens-là. C'est un engagement.
Et oui, vous allez les trouver comment ? Parce que c'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais nous savons aussi financer nos priorités. Et ce gouvernement, je suis rattaché au ministère du Budget, ça tombe plutôt bien. Ce gouvernement finance ses priorités. Nous finançons la suppression de la taxe d'habitation. C'est 18 milliards d'euros en l'espace de 4 à 5 ans. Nous le faisons en tenant nos engagements. Nous n'avons pas dépassé nos engagements en termes de déficit. Nous continuons à diminuer le poids des prélèvements obligatoires tout en dégageant les marges de manœuvre pour financer des priorités. C'est ce que nous ferons.
Un tout dernier mot, Olivier Dussopt, sur l'ambiance dans les manifestations. Il y a eu quelques heures place de la République. En ce moment, il y a des tensions place de la Nation. Il faut qu'on s'habitue à ces manifestations avec des heures. C'est devenu la règle maintenant dans les mobilisations.
Je ne suis pas sur place. Il y a un préfet de police, un ministre de l'Intérieur et chacun s'occupe de ses compétences. Mais ce que je vois, notamment sur vos écrans, c'est que les heures que nous avons ne sont pas des heures liées aux organisations syndicales. Au contraire. Nous avons eu presque 700 000 personnes, peut-être un peu plus, un peu moins, c'est en cours de précision, qui ont manifesté aujourd'hui. Dans l'immense, immense majorité des cas, les choses se sont bien passées. Et si elles se sont bien passées, c'est aussi parce que les organisations syndicales, quand bien même nous puissions avoir des désaccords très profonds avec elles, ont des services d'ordre et savent organiser des manifestations. Nous l'avons dit dès ce matin, c'est un point qui est important et il faut saluer le travail qui a été fait pour que les manifestations, dans l'immense majorité des cas, se passent bien. Après, il y a des heurts, il y a des tensions, il y a des casseurs. Là, c'est le boulot des forces de police, de la justice, et je les condamne les plus fermement possible.
Mais en tout cas, merci aux syndicats, et vous espérez que dans les semaines qui viennent, les syndicats vont aussi vous aider pour la suite.
Et nous espérons surtout que la discussion soit la plus constructive possible pour que cette réforme, qui est une réforme de justice, aille au bout. Parce qu'on a un système qui aujourd'hui est injuste, les Français le savent, qui est fragile, et le réformer, le transformer, c'est une nécessité.
Merci Olivier Dussopt d'avoir été mon invité.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Avec à 19h30, évidemment, nos informations et tous les détails sur ce qui s'est passé dans les mobilisations aujourd'hui. On a les derniers chiffres, hein, 700 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. Les objectifs, évidemment, des manifestants. Et puis la suite à partir de lundi quand il y aura encore blocage. On fait le point avec nos invités.
Et vous pouvez réagir au 39-21, n'hésitez pas. C'est le standard d'Europe 1, vous avez la parole. C'est votre grande journal du soir jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et on jette un œil sur le futur de notre planète.
Eh oui, c'est demain et notre rendez-vous capital toute la semaine à l'occasion de la COP25. On a décidé d'être concret, de vous emmener sur les 5 continents et de vous montrer les enjeux de ce changement climatique. Avant-dernière étape, ça se passe au Sénégal, où l'exil climatique est bel et bien une réalité pour certains habitants de la région de Saint-Louis, dans le nord-ouest du pays. Ils fuient leur village face à la montée des eaux. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Ahmed accoste avec sa pirogue comme s'il arrivait sur une simple plage. Il ne sourcille pas. Pourtant, à peine a-t-il posé le pied sur le sable qu'il s'accoude à un vieux morceau de bois planté là comme un repère et d'où il décrit son monde englouti.
Vous voyez, je me trouve vraiment au bord de l'eau. Il n'y a que du sable, mais c'est là que se trouvait ma maison. 5 mètres plus au large, là-bas, c'était celle de mon père. Quand la marée est basse, on voit encore les ruines. Vous voyez l'arbre qui dépasse là-bas à 20 mètres du bord ? C'était notre arbre à palabres. là où on se rencontrait au village, là où j'ai rencontré ma femme aussi.
Son regard se perd vers le large et vers la langue de Barbarie, une bande de sable qui protégeait son village de l'océan Atlantique, une barrière qui a commencé à céder en 2007 devant la montée des eaux. 5 ans plus tard, 300 mètres de littoral disparaissaient et son village avec. Ahmed s'est déplacé à l'intérieur des terres sur un terrain donné par un ami, mais Abdulaziz n'a pas eu cette chance. Quand la digue de béton qui protégeait sa maison a lâché, c'est par une échelle qu'il s'est sauvé en grimpant sur le toit de son voisin. Et c'est dans un camp monté à la hâte par le gouvernement qu'il s'est installé avec ses chèvres et ses enfants. Il vit, dit-il, comme un réfugié climatique.
Nous sommes les victimes de ce réchauffement que nous prenons de plein fouet. La vie que nous menons n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Aujourd'hui, quand il y a une tempête de pluie, les bâches qui nous protègent s'envolent. Nous n'avons même pas de quoi congeler notre nourriture. Notre monde est un désastre.
Un monde que veut fuir Badera. Il s'est lui retranché sous une tente dans le jardin de sa grand-mère à 800 mètres du bord de l'eau, sans travail car avec ces changements, l'économie locale souffre, les pêcheurs sont à la peine, les surfaces agricoles se réduisent, pas de quoi le rassurer ni éteindre ses envies d'ailleurs.
Je veux aller parce qu'il y a le danger de l'eau qui monte. Mon objectif, c'est d'aller en Europe pour aller faire du travail là-bas, gagner sa vie après, pour reconstruire cette maison.
On est tous bouleversés, dit-il, au point d'être prêt à sauter dans la première pirogue qui prendrait la direction des Canaries, prêt à travailler en Espagne pour envoyer à la famille restée sur place l'argent qui permettrait de reconstruire un chemin qu'a pris le fils d'Amadou, un vieux pêcheur qui constate que le lien se distend avec le jeune migrant.
Nous avons très peu de nouvelles depuis 3 ans. Il ne revient pas ici parce qu'il n'y a pas de travail, mais aussi parce que notre situation ne lui fait pas envie. Il sait que nous n'avons plus de maison. Il n'a aucune envie de venir vivre dans un camp de réfugiés sous une tente.
Allez jusqu'en Espagne pour fuir l'eau qui monte, gagner la région de Barcelone. Les Sénégalais ont une expression pour ça. Le Barça ou la Barçar, le club de foot de Barcelone ou la mort. Gandiol, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
C'est véritablement la mer qui avance, hein, qui grignote le littoral, on l'a entendu, parce que le niveau général des océans monte. Bonsoir Virginie Salmen.
Bonsoir.
Spécialiste écologie Europe 1, que disent les derniers rapports scientifiques ?
Eh bien, le rapport qui fait date, c'est le dernier rapport du GIEC en septembre, le premier consacré aux océans, et le niveau de la mer, eh bien, monte plus vite que ce qui était prévu. Si on continue sur la trajectoire actuelle d'émissions de gaz à effet de serre, avec en plus une croissance économique rapide, qui voudrait dire qu'on émettrait encore plus, eh bien, le niveau des océans pourrait monter d'1,10 m à la fin du siècle, en 2100, avec des grandes villes côtières comme Bombay, Shanghai, New York ou Londres, qui devraient faire face à de fortes inondations, voire des quartiers entiers inhabitables.
Et en France, alors, le littoral est menacé aussi par le niveau de la mer ?
Oui, la France subit déjà la montée des eaux et l'érosion de ses côtes. Le littoral a déjà un peu reculé en Bretagne, autour de la mer Méditerranée, mais le symbole, c'est Soulac-sur-Mer en Gironde, où pour la première fois dans notre pays, un immeuble a été évacué en raison de la montée du niveau de la mer, c'était en 2014. Au total, en France, 1 400 000 résidents sont menacés, 850 000 emplois et 864 communes. Tous ces chiffres, ce sont ceux du gouvernement. D'ailleurs, un rapport a été remis la semaine dernière à la ministre de la transition écologique, Elisabeth Borne, parce qu'il n'est plus question d'éviter la montée des océans, c'est un fait, mais de s'adapter.
Ah là là, merci beaucoup Virginie Salmen, là encore ce soir, hein, ça fait froid dans le dos, vous êtes spécialiste environnement d'Europe 1, merci à vous. Et on va continuer
dans un instant, ouais, des infos. Et après...
Et oui, on est évidemment ensemble dans un instant avec de nouveaux chiffres, la mobilisation, les mobilisations un peu partout en France aujourd'hui, les violences également dans les cortèges contre la réforme des retraites. Un nouveau point trafic aussi dans ce studio, c'est avec notamment Sébastien Krebs.
Et toutes vos réactions en direct, hein, au 39-21, vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct et sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. 19h30 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs pour les toutes dernières informations.
La guerre des chiffres, 740 000 manifestants comptabilisés à travers la France selon les autorités. Le double, plus d'1,5 million selon la CGT. À Paris, des heurts ont éclaté au moment de la dispersion du cortège Place de la Nation. Il y avait 40 500 manifestants dans la capitale selon le comptage du cabinet indépendant Occurrence auquel Europe 1 est associé. Mouvement reconduit dans les transports. Demain, à nouveau 90% des TGV annulés, 70% des TER supprimés. En Île-de-France, seulement 15% des Transiliens en circulation. 10 lignes du métro parisien à nouveau fermées. La grève à la RATP reconduite jusqu'à lundi inclus. Air France annule un tiers de ses vols intérieurs et 10% de ses moyens courriers. Vous retrouvez toutes les prévisions sur europe1.fr. On sait maintenant que le contenu précis de la réforme des retraites sera annoncé en milieu de semaine prochaine par le Premier ministre. Et par ailleurs, on salue ce soir cette nouvelle victoire française en Coupe du Monde de biathlon en Suède après le quadruplé masculin hier, doublé féminin aujourd'hui sur le 15 km. Justine Brezaz devant Julia Simon.
Merci beaucoup Sébastien, retour de l'info avec vous demain 18h. Anissa, cela donne quoi? De la pluie?
Oui, beaucoup de pluie demain, effectivement, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Cette perturbation, elle va d'abord toucher en début de journée la Bretagne, la Normandie, le Centre-Val de Loire, la région parisienne, les Hauts-de-France et les Ardennes, avec donc beaucoup de pluie tout au long de la journée, accompagnée de vent d'ouest. Du coup, les sols sont froids, hein, parce qu'il fait moins 3, moins 1 degré, les températures positives sont quand même pas très nombreuses et du coup, Météo France place le département des Ardennes en vigilance orange pour risque de pluie verglaçante cette nuit et jusqu'à demain midi. À l'avant de cette perturbation, au sud de la Loire, la journée commence sous le brouillard, comme depuis plusieurs jours, avec dans l'après-midi du Pays Basque aux Alpes, une journée assez ensoleillée. En Corse, le ciel est toujours très couvert avec des averses à prévoir. Les températures, moins 5 à Montluçon, demain matin, moins 3 à Strasbourg, moins 2 à Lyon et Belfort, 1 degré à Paris et jusqu'à 9 degrés demain matin à Cherbourg.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, est jusqu'à 20h. On va s'intéresser de près à cette journée de mobilisation du 5 décembre.
Et oui, on va essayer de comprendre, de décrypter les chiffres. D'abord, en termes de mobilisation un peu partout en France, on a des chiffres différents, évidemment, selon les autorités, selon les syndicats. On est dans ce studio avec notre invité, entre autres Hervé Lebras, ce soir. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'être ici, spécialiste en histoire sociale, démographe. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS à Paris, entre autres. Bonsoir Emmanuel Dutheil.
Bonsoir Nathalie.
Chef du service économique d'Europe 1. On sera avec la secrétaire confédérale de la CGT, Catherine Perret, dans un instant. Elle est madame retraite, hein, précisément de la CGT. Et on va commencer avec Mathieu Bock. Vous êtes reporter à Europe 1. Vous suivez le cortège des manifestants qui sont arrivés place de la Nation à Paris avant la dispersion. Quelle est la température là, à l'heure où nous parlons? Les violences, c'est derrière nous?
Honnêtement, oui. Tout à l'heure, c'était effectivement un peu tendu. Là, les manifestants ont rallumé la musique et ils font une sorte de ballet un peu étrange. Ils se tiennent tous par les coudes, bras dessus, et ils font tout doucement le tour de la place de la Nation au centre, comme pour prendre possession de la place. Et dans le cercle extérieur, bah, vous avez les CRS et les gendarmes mobiles qui les suivent, qui avancent en même temps qu'eux, qui s'arrêtent en même temps qu'eux. Et c'est un face-à-face circulaire, en fait, tout autour de la place de la Nation. L'ambiance s'est vraiment calmée. Les CRS, là, ont demandé aux organisateurs de couper la musique pour commencer à disperser les manifestants. Mais pour l'instant, la tension est redescendue. Mais ils sont toujours plusieurs centaines ici, place de la Nation.
Merci beaucoup Mathieu Bock, vous revenez évidemment en direct un peu plus tard pour nous donner de nouvelles informations. On n'est pas encore au moment de la dispersion. Hervé Lebras, c'était quoi ce aujourd'hui? C'est pas fini d'ailleurs, une démonstration de force des syndicats. On a des chiffres, hein. 1,5 million d'après la CGT, ça donne 740 000 évidemment la place Beauvau, chiffre du ministère.
Oui, coupons en deux, disons, oui, autour, ça, de, 850, autour, d'un million.
Autour d'un million.
Donc certains diront c'est deux fois moins qu'en 1995 ou bien en 2003. C'est pas du tout la même époque. Beaucoup de personnes, par exemple, ont fait grève mais n'ont pas manifesté. Donc c'est plutôt non pas un succès, mais presque un succès pour les syndicats qui réapparaissent sur la scène politique, ne serait-ce que parce que c'est un score très supérieur à la première journée des Gilets jaunes le 17 novembre de l'année dernière.
Alors, Catherine Perret est en ligne, elle vous a entendu, Monsieur Lebras, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT, Madame retraite de la CGT précisément. Merci de nous écouter ce soir et de répondre à nos questions.
Bonjour.
Vous êtes encouragée, donc vous allez continuer finalement ce soir?
Ah ben évidemment, parce que là, au dernier comptage qu'on est en train d'effectuer, on est à 1,5 million, plus de 500 000, hein.
Oui, mais nous aussi, on a des chiffres aussi, hein, Madame Perret. Les chiffres du cabinet indépendant Occurrence, auquel est associé Europe 1, typiquement, c'est de 40 500 à Paris, vous dites 250 000. Enfin, vous voyez, on n'est même pas du simple double, hein.
Non, mais là, on fait un compte très précis, y compris, il y a des villes moyennes, là, vous voyez, où ça trompe pas. Quand une ville comme Nevers, dans la Nièvre, a 10 000 manifestants, vous voyez qu'on est sur un mouvement massif. En tout état de cause, il y a beaucoup, beaucoup de salariés qui se sont mis en grève et qui ont défilé aujourd'hui, de tous les secteurs professionnels. Là, je pense que le ministre ne peut plus dire que c'est un problème de quelques secteurs professionnels, hein, puisque là, on a la démonstration qu'il y avait plein de professions qui étaient mobilisées aujourd'hui. Et donc à partir de là, on est clairement sur un mouvement de masse important qui va durer. Et donc il faut maintenant que le gouvernement donne des réponses rapidement.
Alors les réponses, on va y venir. On va faire une discussion à trois si vous le voulez bien. Yemen Dutheil également qui est dans ce studio. Monsieur Lebras, le gouvernement, il va y venir. Il va les apporter les réponses normalement milieu de semaine.
C'est ce qu'il a dit, mais il faut que ça soit des réponses précises. Parce que
cette fois, il faut que ce soit précis.
Oui, parce que sinon, et ce ne sera pas facile. Je pense au fond, le cas le plus dur, qui est le cas où il y a eu d'ailleurs le plus fort pourcentage de grévistes, c'est le cas de l'éducation nationale. Et c'est très compliqué de dire, voilà, on va baisser en fait avec le système de points vos retraites, mais on va relever en vous donnant...
le salaire, revalorisation du salaire.
Revalorisation, elle va dépendre du nombre d'années avant la retraite. C'est très très compliqué, donc il va falloir qu'il arrive à expliquer cela. Donc il peut s'en tirer s'il a vraiment saisi l'enjeu, parce qu'il y a un enjeu fort. S'il ne le fait pas, ça sera comme avec les gilets jaunes, je pense, c'est-à-dire que d'autres mécontentements vont s'agréger et la situation va devenir difficile à gérer.
Catherine Perret, vous entendez, Emmanuel va nous expliquer. Catherine Perret, il y a des choses, d'ores et déjà, les policiers aussi, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'est adressé à eux hier soir, il leur a dit, parce qu'il y a évidemment les dangers que court cette profession, on touche pas aux primes, on touche pas à leur catégorie. Les enseignants également, vous voyez bien qu'il y a des gestes qui sont faits, et même au-delà.
Alors moi, je pense que ça ne suffira pas. Je vais vous prendre deux exemples. Pour les policiers, la mise en place d'un compte de pénibilité sur le modèle du privé, ça fait que 80% des policiers n'ont pas la reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de leur métier. Donc vous voyez, c'est une blague quand on leur dit qu'on pense à eux. Et puis les enseignants, effectivement, très 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 mobilisés, c'est 10 milliards d'euros. La rémunération, parce que la perte, maintenant, elle est connue de tous. Tous les enseignants ont fait leurs calculs et ont compris qu'ils perdaient entre 300 et 800
et 600,
euros.
Et 600 euros pour les professeurs des écoles actuellement
même
en fonction.
Pour les plus jeunes, ça va jusqu'à 800 euros. Mais... Moi, j'étais avec des jeunes enseignants dans la manif cet après-midi qui me disaient, mais nous, on est prêts à reconduire la grève autant qu'il le faudra, parce que de toute façon, même si on perd chaque jour de grève, on perdra moins que si cette réforme...
C'est 90 euros par jour. Donc, Catherine Perret, vous restez en ligne, on se retrouve dans un petit instant dans ce studio. Hervé Lebras, notre invité, Catherine Perret, vous êtes en ligne, et Emmanuel Dutheil. À tout de suite. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, et on fait le bilan aujourd'hui, premier bilan à chaud de cette journée de manifestation du 5 décembre partout
avec
en France.
Avec notre invité Hervé Lebras dans ce studio, spécialiste en histoire sociale, démographe, directeur d'études à l'EHESS à Paris, Catherine Perret qui est en ligne, secrétaire confédérale de la CGT, Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1, et les auditeurs également qui nous appellent. Monsieur Lebras, quand même, un mot, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces violences. On les a vues beaucoup dans les mouvements des Gilets jaunes, rebelote encore aujourd'hui, on ne peut plus faire de manifestations sans violence ?
Non, visiblement c'est un problème. Ceci dit, si on veut être positif, le degré de violence a quand même assez nettement diminué. On a l'impression que, si vous voulez, on a l'impression que la police s'est adaptée plus rapidement que les Black Blocs. Et là, elle a été surprise aujourd'hui, elle ne s'attendait pas, je pense, à ce qu'ils interviennent en milieu de manifestation. Ils les attendaient, ou au début, ou à la fin. Donc, ils ont été, disons, un peu malins, mais je pense qu'ils n'ont plus beaucoup de ressources dans les prochaines manifestations, donc que le niveau de violence aura plutôt tendance à baisser, mais il va rester dans les années à venir.
Emmanuel Dutheil.
Olivier Samain, qui suit les manifestations à Europe 1 depuis 1982, donc je peux vous dire qu'il en a fait un paquet, est rentré en disant que ça faisait quand même longtemps que finalement il n'y avait pas eu une violence aussi forte que ce qu'on aurait pu craindre. Sans dénier, bien évidemment, le fait qu'il y ait eu des violences, mais on était assez loin des grosses violences qu'on a pu connaître ces derniers temps. Et lui a été, à l'inverse, plutôt impressionné par le côté extrêmement compact de la mobilisation et malgré tout assez fort, puisque si on prend les différents chiffres, on cite le chiffre du partenaire d'Europe 1, en l'occurrence, on est à 40 500.
À Paris,
si on regarde la préfecture, on est à 60 000. Ça peut paraître être des petits chiffres, mais c'est largement supérieur à ce qui avait été escompté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nathalie, mais les chiffres qui étaient donnés par Charles Villeneuve avant-hier, c'était plutôt 20 à 30 000. Donc malgré tout, on peut trouver que ce n'est pas beaucoup, mais les syndicats ont fortement réussi malgré tout ce premier round.
D'autant plus que, visiblement, les Black Blocs n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur de la manifestation. Ils sont restés marginalement, alors que dans le cas des Gilets jaunes, ils s'étaient presque parfaitement intégrés aux manifestations.
Alors, on va prendre Alain qui nous appelle des Yvelines ce soir. Alain, bonsoir, vous êtes en ligne ? Oui. Vous avez été chef d'entreprise pendant 50 ans, que dites-vous ce soir ?
Écoutez, moi je pense surtout au... Bon, le droit de grève, c'est constitutionnel, c'est très bien, mais le droit de travailler, ça existe aussi. Donc moi je pense d'abord à tous ces commerçants en particulier qui ont eu une année très compliquée à cause des Gilets jaunes, qui comptent sur cette période de Noël pour se refaire, etc. Donc la manifestation est probablement un succès vu par les syndicats. Le message est passé, mais maintenant il faut arrêter. Il faut attendre que le gouvernement sorte un texte et puis entre-temps qu'on laisse travailler les gens, qu'on laisse les commerçants, les gens qui veulent travailler, eux aussi participer à l'effort du pays. Parce que c'est à ces gens-là que je pense.
Et particulièrement en ce mois de décembre, ce mois de fête, évidemment. Absolument. Merci beaucoup Alain. Vous savez quoi ? C'est Catherine Perret qui va vous répondre tout simplement. Vous nous appelez des Yvelines, Alain. Écoutez bien, Madame Perret, répondez. Vous êtes secrétaire, je rappelle que vous êtes secrétaire confédérale de la CGT, oui. Madame Retraite, répondez à Alain, qu'est-ce qu'on dit aux commerçants ?
Alors d'abord, je voulais vous dire qu'en termes de manifestation aujourd'hui, selon la police, il y a eu 245 rassemblements partout en France et tous ces rassemblements en province se sont très bien passés. Et donc, je pense qu'il faut souligner la très grande responsabilité des manifestants de manifester pour justement leurs revendications et d'éviter toute forme de violence. Maintenant, moi, je vais répondre que très simplement que la balle est dans le camp du gouvernement. C'est-à-dire, s'ils veulent que les salariés reprennent le travail, eh bien, il faut retirer cette mauvaise réforme, rappeler tout le monde autour de la table de négociation et travailler sur l'amélioration du système de retraite. Je suis d'accord avec Alain. Nous, notre objectif, c'est pas d'empêcher les gens de travailler, ce n'est pas empêcher les commerçants de vendre au moment des fêtes, mais la responsabilité avant tout, elle incombe au gouvernement. Puisque la majorité des Français refusent cette réforme de dégradation des droits à la fois en termes de pension et d'âge
même,
de retraite.
Ce que vous dites quand même, c'est que si en milieu de semaine vous n'avez pas, si le compte n'y est pas, si j'ose dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à lundi inclus, il y a grève. Ça veut dire que ça peut continuer encore ?
Très clairement, vous avez vu la détermination des gens qui se sont mis en grève. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas la bonne réponse du gouvernement, c'est-à-dire le retrait de ce projet, eh bien, évidemment, la grève va se poursuivre. Elle va peut-être s'élargir même, et cela peut-être jusqu'à Noël, voire au-delà de Noël.
Reprendre en janvier, donc, vous ne l'excluez pas ?
On n'est pas encore à la trêve des confiseurs.
Mais vous ne l'excluez pas ?
Non, bien sûr. On est déterminé, et parce que les salariés le veulent, très majoritairement, ils l'ont démontré aujourd'hui, à faire échec à cette réforme qui est une mauvaise réforme. Tout le monde a compris que cette réforme devait être retirée.
Merci beaucoup Catherine Perret. On entend Emmanuel Dutheil et on va entendre votre réponse surtout dans une petite seconde avec vous aussi Hervé Lebras, bien sûr.
Et la suite de votre grand journal du soir, c'est dans un instant sur Europe 1 et c'est avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et vos invités. Nathalie, on fait un premier bilan de cette journée de mobilisation qui va continuer d'ailleurs demain. Première journée de mobilisation, journée de grève, ouais, effectivement, dans toute la France.
Oui, avec grève jusqu'à lundi inclus, notamment dans les transports parisiens, la RATP. Emmanuel Dutheil, vous allez nous livrer un petit point dans une toute petite seconde. Je voudrais juste vous entendre tous les deux, Monsieur Lebras, parce que vous avez écouté Catherine Perret, Madame Retraite de la CGT. Ils sont déterminés. Si c'est que des concessions de la part d'Emmanuel Macron, et a priori, il se dit déterminé, donc il n'y aura pas un retrait de cette réforme, a priori, ça peut aller jusqu'à Noël, et pourquoi pas reprendre en janvier.
Moi, je ne pense pas que la forme classique qu'on a connue de grève peut durer très longtemps. Ce qui peut par contre arriver, c'est quelque chose à la manière des gilets jaunes, c'est-à-dire que d'autres mécontentements se grèvent, d'autres troubles se produisent. Donc il faut, pour l'instant, le gouvernement et la CGT sont dans un jeu de rôle, qu'ils jouent d'ailleurs, je trouve, très bien. Ils sont fermes sur leur position. Ce qui indique d'ailleurs, quand on est comme ça ferme sur ses positions, qu'en fait, on est plutôt prêt à discuter,
à s'assouplir, disons, Emmanuel Dutheil.
Après, je pense qu'il y a, au moment où on se parle, parce que tout peut évoluer bien en sûr. Fonction, bien évidemment, des mobilisations, au moment où on se parle, personne à l'Élysée, à Matignon ou dans les différents ministères envisage de reculer sur l'esprit de la réforme. C'est-à-dire, je vous rappelle, de passer un système à points. Ça, personne n'envisage. En revanche, il est très clair qu'on est très loin de ce qui était imaginé au démarrage. C'est-à-dire qu'au démarrage, dans le rapport Delevoye, on est sur ce qu'on appelle la classe d'âge 63. C'est tous ceux qui ont aujourd'hui, qui sont nés en 1963, seraient concernés par la réforme. Ça veut dire la quasi-totalité des gens qui sont aujourd'hui dans l'emploi. Aujourd'hui, ce qui circule, c'est plutôt 10 ans plus tard, 1973. Et ça, ça change tout. Ça sort de la réforme un nombre considérable de gens. Et bon, les Échos le rappelaient ce matin, semble-t-il, ce qui est très important, c'est que malgré tout, le président de la République soit concerné par la réforme. Il est classe d'âge 77, donc ça a l'air d'être le delta maximum. Mais il y a un autre élément très important, puisque nos éditeurs doivent entendre régulièrement le paramétrique, ce qui ne veut rien dire pour la plupart de nos éditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre régime des retraites est en déficit, et quand on fait du paramétrique, c'est qu'on allonge un peu la durée de travail, ce genre de choses, pour faire des économies et pour revenir dans le vert. Et ça, c'est quelque chose que la CFDT ne veut, dont la CFDT ne veut pas entendre parler pour le moment. Et c'est un autre point très important sur lequel le gouvernement pourrait tout à fait céder, c'est dire, bon allez, il y a X milliards de déficit, tant pis, on les réglera plus tard.
Donc ça s'appelle des concessions, monsieur Lebras, ça s'appelle des concessions. Ce qui est quand même fou, vous allez me dire si je me trompe, mais cette réforme, elle est importante, elle est même essentielle pour Emmanuel Macron. Et ce qu'elle donne comme sentiment depuis des semaines, c'est ce sentiment de flou, alors qu'elle est un marqueur, véritablement, de son quinquennat.
Oui, c'est dommage d'ailleurs pour lui, parce que là, je vais reprendre la formule qu'a employée à nouveau Martine Aubry, en disant, quand il y a du flou,
il y a un loup.
Il y a un loup. Donc ça a créé, je pense que ça a favorisé la manifestation d'aujourd'hui, parce que on aurait dû donner par exemple des exemples précis, on aurait dû donner quelques chiffres précis, sinon quand une réforme est très compliquée, il y a des tas de négociations possibles, donc on lâchera ceci ou cela. C'est un monde absolument immense, le monde de la retraite, puisque ça concerne toute l'existence active.
C'est le point le plus important, ça concerne tout le monde. Exactement. Et quand vous regardez toutes les études, quand vous interrogez les sociologues, ce qui fait le plus peur aux Français, de quasiment de toutes les générations, c'est de ne plus avoir de retraite.
Absolument.
Et qu'est-ce qu'a instillé le gouvernement en étant d'une imprécision totale ? C'est d'être incapable de rassurer sur ce point le plus important. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas de ce système parce qu'ils pensent que c'est un système qui va, à tort ou à raison, là, il n'y a pas de jugement dans mon propos, c'est un système qui va faire que des perdants. Donc, grosso modo, pour eux, la réforme, c'est pas sauver le système, c'est pas avoir une retraite, c'est être perdant et payer toujours pour les autres. Et c'est là-dessus où ils ont fait une erreur monumentale de communication.
Et on met le bras.
D'autant plus qu'il faut quand même rappeler que la France n'est pas le pire pays pour les retraites, comme vous le savez. C'est l'un des 28 pays d'Europe qui consacre la plus forte part de son PIB aux retraites. C'est le pays d'Europe où la durée de vie à la retraite est la plus longue. C'est le pays d'Europe où l'âge moyen au départ d'activité, pas les âges légaux, mais l'âge moyen est le plus faible sur les 28 pays. Donc on est quand même dans un pays où les retraités ne sont pas malheureux à ce point. Il y a des cas dramatiques, et notamment relevés jusqu'à 1 000 euros.
Et la réforme ne prévoit pas qu'il le soit plus demain.
Ben voilà, oui, ils craignent, mais alors peut-être ils le craignent justement parce qu'ils sont dans une bonne situation. Le taux de pauvreté est le plus faible en France pour les personnes âgées, et il est le plus fort pour les jeunes. Et quelque part, s'il y avait vraiment une réforme presque plus urgente, ça serait du côté des jeunes qui sont nettement plus pauvres que les personnes âgées. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes âgées très pauvres. La mesure qui consiste à ce qu'il n'y ait pas de retraite inférieure à 1 000 euros est une excellente mesure de ce point de vue-là.
Mais du coup, l'exercice de communication dans lequel va se lancer Édouard Philippe la semaine prochaine, a priori, c'est mercredi, jeudi, qui doit s'exprimer.
On va voir. Mais c'est pareil, quand ils disent l'architecture, c'est le mot des mots.
C'est-à-dire qu'ils ne vont sûrement pas donner la date, par exemple, la classe d'âge qui sera concernée.
Ça sera Jean-Paul Delevoye encore dans
Non, quel... c'est qu'ils vont laisser sûrement une marge de négociation aux syndicats pour essayer de dire, bon, laquelle classe d'âge on prend. Et puis attention, est-ce qu'on prend la même classe d'âge pour tout le monde, puisque le Premier ministre avait laissé entendre que peut-être qu'on mettrait un petit peu plus de temps pour les régimes spéciaux, donc peut-être Plaza 73 pour tout le monde et 75 pour la SNCF.
On va s'arrêter là, messieurs, mais merci beaucoup. En tout cas, merci à vous, Hervé Lebras, d'être venu ce soir dans ce studio. Emmanuel, en quelques secondes, vous pouvez nous donner les prévisions pour demain?
Restez chez vous. Un TGV sur
10,
bah, c'est clair, un TGV sur 10 va rouler, 3 TER sur 10 seulement, et encore la plupart ce sera de la substitution par bus, donc pour les gens concernés c'est quand même pas très pratique. C'est catastrophique également sur le Transilien. À la RATP vous avez 10 lignes de métro fermées, vous en avez une de plus qu'aujourd'hui qui va fonctionner. Vous avez bien évidemment toujours les lignes automatiques, et plus les jours vont avancer, plus ça va être compliqué. Aujourd'hui, pour ceux qui étaient à Paris, tout le monde là par exemple Europe 1 disait, on a l'impression d'être dimanche ou d'être le 1er janvier, bah demain vous allez voir, ça va pas être ça.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Hervé Lebras, d'être venu. Merci, Emmanuel Duteil, pour ces éclairages à tous les deux. Émilie Mézoyer, vous avez toutes les infos. Hein.
Toutes ces bonnes nouvelles.
Mais n'est-ce pas?
Restez dormir à la radio, Émilie.
Alors, Émilie Mézoyer, un peu de musique avec vous, ça va nous faire du bien.
Exactement. On va fêter avec un petit peu d'avance la sortie demain du deuxième album de Thérapie Taxi. Vous les avez découverts avec ce tube. Si tout le monde déraille, 100 fois trop. Ça s'appelait Hit Sal, c'était le nom de leur premier album. Et bien, le deuxième sort demain, Cadavre Exquis. Et on aura donc en exclusivité, avant la sortie du disque, des extraits des nouvelles chansons de ce groupe qui va compter les prochaines années, j'en suis sûre. Je mets un billet.
Ça, c'est les paris. Ouais. Émilie Mézoyer, on vous suit. Merci, Émilie. On est branchés avec vous, avec du bon son. On sera là demain soir.
Bien sûr, à partir 18h-20h,
quel que soit le moyen pour venir jusqu'à vous, chers auditeurs. On vous dit merci de votre fidélité. On remercie toute l'équipe. Et on se retrouve donc demain pour écouter Anissa,
le monde changé. À demain, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.